Nous sommes mercredi 19 mars 2025 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Et bonsoir Mecton.
Et bonsoir.
Et on se retrouve pour troisième partie de notre grande rétrospective de la bagarre.
C'est un peu le troisième round finalement.
Voilà, on s'est fait mettre KO au deuxième, on était devant sur le premier, donc là, voilà, faut se départager, enfin, c'est le troisième. On va parler de la période qui court de 1994 à maintenant, sachant que oui, ça a l'air d'être gros, mais en fait, il y a une partie qu'on va passer rapidement parce que finalement, elle
parce
est.
Que le niveau 2 est un désert. Important.
Oui, bah surtout que la dernière fois, on a déjà fait.
On touche un petit peu plus gay parce qu'il y a toute une partie de cette période qui est plutôt une espèce de traversée du désert. Donc, ça marche pas du tout. Il y a tout un tas de trucs qui se passent, mais voilà, on va faire ça. Et on va tout de suite partir sur le traditionnel groupe avec le bon monsieur Antix qui vient de parler avec des cadres d'Ubisoft. Qui se devait s'ouvrir il y a quelques jours.
Yes, tout à fait. Qui aurait dû commencer lundi dernier. Libération avait même fait sa une, parce que je rappelle que ceux qui avaient fait la. Qui avaient sorti enquête sur ce qui se passait à Ubisoft. Donc, petit rappel de ce qui s'est passé, on en avait parlé à l'époque, je crois que c'était en l'été 2020.
Oui.
Donc, c'était il y a 5 ans, à une époque où on n'avait pas le droit de sortir de chez vous, je vous rappelle. Et du coup, ça avait été remonté que donc les cadres de la direction édition d'Ubisoft, notamment Serge Escouet et Tommy Thomas, et comment il s'appelait l'autre ? Tommy quelque chose, j'avoue j'ai oublié les noms des deux autres.
J'ai plus les noms, ça va être compliqué. Hein.
Bref, trois noms étaient ressortis de cette enquête, parler de harcèlement moral, harcèlement sexuel. Je ne sais plus s'il y avait du viol dans l'histoire, mais bon, en tout cas on est sur des personnes qui effectivement créent une ambiance extrêmement violente et toxique au travail. Sachant qu'en plus, on apprenait aussi au passage qu'une bonne partie de la philosophie d'Ubisoft en termes de jeu était gérée par ces personnes qui à la fois avaient fait ses meilleures années, mais commençaient aussi à devenir un petit peu responsables du fait que Ubisoft tournait en boucle. Donc ça n'a aucun rapport avec le jugement que nous allons qui devait avoir lieu la semaine dernière. Ce jugement a été repoussé au mois de juin, donc quand même dans pas très longtemps, puisque à la demande des avocats de la défense, et même à la demande de la partie civile aussi, qui était d'accord avec ça, pour cause de pièces manquantes et envoyées trop tard à la défense, et bien le procès sera repoussé au mois de juin. Un procès en plus qui aurait dû tomber une semaine avant la sortie de Assassin's Creed Shadows, donc le dernier Assassin's Creed qui a déjà fait couler beaucoup d'encre sans être sorti, à cause de son histoire de samouraï noir. Ce qui me permet d'enchaîner d'ailleurs sur une petite news que j'ai vue tout à l'heure, Le Figaro, par la plume de Chloé Wauthier, a publié un article justement qui interview les créateurs du dernier Assassin's Creed. Et donc c'est un article qui est sous abonnement, mais donc l'autrice a publié un petit extrait sur son Blue Sky, qui notamment reprend des citations des employés qui justement parlaient un petit peu de la direction et du soutien qu'ils avaient pu avoir au sujet de des différentes polémiques entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des polémiques, hein, et des harcèlements qu'il y a pu avoir en ligne par certains joueurs auprès des employés, et notamment le manque de soutien de cette direction. Donc c'est effectivement, enfin c'est un petit peu différent que l'affaire qui nous occupe, mais on reste dans la continuité, et ça fait quand même 5 ans qu'on est dans une période de défiance entre les employés et la direction d'Ubisoft, ça a pas l'air de s'arranger. Donc voilà.
C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant finalement, c'est que y a pas de. Enfin, le procès aurait peut-être permis aussi de fermer cette page-là d'une certaine manière, et ce sera pas le cas avant le mois de juin. Et en plus, ça risque de traîner en longueur, il y a probablement moyen qu'il y ait un appel. Enfin, ça, on en a encore pour quelques mois, voire quelques années, à entendre parler de ce truc-là, quoi. Ce qui est quand même un peu. Toujours un peu tristoun, je trouve.
Ouais, non, bah en plus, on est. Enfin. C'est triste aussi de se dire que Ubisoft, depuis des années quand même, était pendant des années un fleuron de l'industrie. Hein. Les grandes années Xbox 360 avec Far Cry 3 et les premiers Assassin's Creed, ça reste quand même leur grande époque. Et puis en fait, depuis plusieurs années, c'est une entreprise qui est pas mal moquée, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Hein. Le fait que tous les jeux se ressemblent, c'est un problème en soi. mais il y a aussi beaucoup de mauvaises raisons derrière ça aussi, et d'entreprises qui le mériteraient plus ne le sont pas, par exemple, genre Activision. Et voilà, c'est triste qu'on en arrive là, et en plus on sent dans les discours de les employés, et même de la situation actuelle, que la façon de gérer Guillemot, elle arrive un peu à bout de course, qu'il n'est plus vraiment reconnu comme le patron, le bon patron qui fait avancer les choses. Et je pense que ça va encore, en fonction de comment ça va se passer pour le dernier Assassin's Creed, ça peut probablement plomber Ubisoft.
Voilà, surtout que visiblement, ce Assassin's Creed Shadow est quand même pas très bien parti au sens où il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire. Donc c'est.
Alors pour l'instant j'ai vu le test de Gamekult et ils sont très positifs à son sujet.
Ah,
Sans être révolutionnaire, c'est bien fait.
j'ai vu d'autres sons de cloche qui disaient bah ouais, ok. C'est finalement dans la lignée de ce qui se fait. Alors après, ça veut pas dire que ça va pas marcher, hein. Finalement, je leur souhaite que ça. À titre personnel, je vais pas y jouer pour l'instant, mais bon. Voilà.
C'est le problème des
Bref.
boîtes qui deviennent trop grosses, ça, la prise de risque, elle est très limitée, quoi.
Il y a quand même eu chez Ubisoft un peu de prise de risque sur 2-3 bricoles, hein. Je pense à Prince of Persia The Lost Crown par exemple,
Je
qui
vois
fait
ça comme
partie
du
des
plus
trucs.
petit budget quand même. T'as
Ouais,
moins de.
clairement c'est du plus petit budget par contre.
La prise de risque en ce moment, c'est d'essayer de sortir un jeu depuis 2008 qui s'appelle Beyond Good and Evil 2. Hein.
Ça, putain.
Enfin, ça j'en ai pas, effectivement, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un autre problème qui reste depuis des années, quoi.
C'est qu'il devait y croire hein, pour l'annoncer.
Je pense qu'il devait pas être si loin que ça, peut-être pas de la fin, mais il devait être suffisamment avancé pour être capable de dire on va l'annoncer. Ce serait quand même étonnant qu'il en soit autrement. Bref. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, on avait fait chanter les louanges d'un petit article de Kotaku qui faisait la liste de tous les jeux services qui sont morts en 2023. Il y en avait plus de 60, je crois que 62, 63.
Putain, la vache.
Juste sur l'année 2023.
Oh, la
Ils ont
vache.
recommencé en 2024, il y en avait à peu près un nombre équivalent. Et là, Star Wars Hunters, qui est donc encore un jeu service, qui est un. Alors, c'est un. Voilà, je me souviens. Un shooter arena, je sais pas quoi, coop en ligne, machin, free to play, bidule. Enfin, voilà, vous pouvez mettre tous les buzzwords que vous voulez dedans. Il manque juste la crypto. Et voilà. Et le jeu a été annoncé, genre, en novembre, si je ne dis pas de bêtises, novembre ou. Alors, soit octobre, soit novembre 2024. Et il fermera officiellement ses portes le 1er octobre 2025.
On l'a eu dans un Nintendo Direct, il me semble.
C'est bien possible, oui. Mais voilà, ce que je trouve absolument tristissime, c'est que il y a apparemment plus de 500 studios qui travailleraient sur des jeux services en ce moment même. C'est-à-dire combien vont réellement réussir à survivre face aux baleines que sont Fortnite, que sont Roblox, que sont Minecraft, enfin c'est le truc. C'est un puits sans fond, il va vraiment falloir à un moment que l'industrie sorte de cette logique-là et fasse un peu autrement, parce que ça va finir par une catastrophe si tout le monde essaye de faire ça.
Bah, suffit de voir ce qui s'est passé avec Concord l'année dernière.
C'est
Hein.
ça.
Le jeu, au bout de 2 semaines, a été fermé, le studio a été fermé. Enfin, c'est des trucs qui sont plus viables, quoi. Enfin, c'est viable, mais en fait, les personnes qui prennent de la place sont déjà là.
Le problème, il est là, c'est que on a le même problème sur les MMORPG ont un petit peu le même problème depuis quelques années, c'est qu'en fait, tu as deux ou trois grosses baleines qui ont à Final Fantasy XIV, World of Warcraft, pour ne citer que, mais des jeux qui prennent une place monstrueuse parce qu'ils ont un contenu monstrueux, et donc du coup tout nouvel arrivant, bah effectivement va attirer des joueurs au départ parce que c'est l'attrait de la nouveauté, mais quand les gens vont avoir fait le tour, et finalement dans un MMORPG le tour entre guillemets pour un jeu tout neuf, tout beau, tu le fais assez vite. World of Warcraft, ils en sont à combien? 15 extensions, 16 extensions, un truc comme ça, donc. Pareil pour FF14, quoi, c'est assez monstrueux la quantité de
Bah
contenu
déjà,
qu'il y a.
à l'époque de WoW, il y avait World of Warcraft et il y avait les autres, hein.
Oui, déjà, mais du coup, tu t'as une espèce de phénomène un peu le truc tourne en rond finalement, c'est-à-dire que les gens vont pour l'attrait de la nouveauté, puis finalement le contenu se retrouve un peu chiche, c'est normal, le truc vient de démarrer, donc les gens retournent sur du World of Warcraft et.
Là, tu mets les chaussons sous la cheminée et t'es tranquille, quoi.
Bah. Le problème, il est là, hein.
Puis c'est des jeux aussi qui ont de la rétention, t'as tes amis, t'as ta guilde,
Oui, c'est ça. Ouais.
c'est dur de passer à autre chose, c'est comme un réseau social, hein.
C'est exactement ça. On est exactement entre le jeu vidéo et le réseau social, et je pense qu'il y a effectivement un effet de réseau qui joue énormément. Donc, tu as effectivement plein de gens qui vont se barrer. Et une fois que, on va dire, les joueurs un peu occasionnels sont retournés finalement vers leurs premiers amours, que ce soit Fortnite, Roblox ou ce que vous voulez, et ben oui, le jeu qui reste, qu'est-ce qu'il a à faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est essayer de traire le plus possible les gros gros joueurs qui sont prêts à mettre beaucoup de pognon dedans, mais ça suffit plus, quoi. ça ne suffit jamais assez. Donc, je pense vraiment qu'il va falloir sortir de ce modèle économique à un moment ou trouver autre chose parce que là,
Je pense
ça
que
devient vraiment ridicule, quoi.
c'est un modèle qui, alors peut-être plus maintenant, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, devait énormément attirer les investisseurs, parce qu'ils ont tous cette idée de Fortnite qui se dit, bah, en fait, c'est un jeu où le cash flow, il est continu, il y a toujours des gens dessus, mais en fait, comme on a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas, enfin, tout le monde peut pas être à ce niveau-là, en fait.
Non, c'est tout le monde. En plus, alors effectivement, tout le monde ne peut pas être à ce niveau-là. Ça paraît évident. Mais en plus, enfin, tu vois, c'est exactement la même réflexion qu'il y avait eu sur l'Intellivision Amico, si vous vous rappelez. Le pitch qui avait été fait aux investisseurs, c'est Sony a vendu X millions de machines, fait tant de milliards de dollars de bénéfices. Si on en prend juste 1%, on est riche. Enfin, gars, les 1%, faut déjà aller les chercher, quoi. Je sais pas si tu vois le pitch absolument ridicule du truc qui est de dire on va prendre 1% à Sony, sans problème. Je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Je sais pas d'où les mecs arrivent à sortir ça, mais je trouve ça assez impressionnant. Bref, nous finissons avec Mecton qui a un petit truc sur monsieur le Smooth McGroove,
Ouais,
le barbu
Smooth
qui
Mac Group,
chante.
exactement, petite news qui fera plaisir. Le monsieur avait fait une petite pause dans son activité créative, et ben écoutez, il va faire une nouvelle saison de reprise de musique de jeu a cappella. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, sachant que si vous voulez l'aider dans sa démarche, il a monté un Patreon pour l'aider un petit peu, si vous voulez lâcher une petite piécette.
Voilà, donc on a le droit de lui glisser un petit bifton dans le slibard. Nous ne manquerons pas de vous informer quand il y a des petites vidéos vraiment intéressantes de Smooth McGroove, parce que des fois il y a vraiment des trucs très très bien, puis il y a des trucs un peu moins bien. Mais bref, ce sera forcément publié sur le Mastodon ou le Blue Sky du dojo, et peut-être qu'on en diffusera dans le dojo bar, parce que pourquoi pas. Après tout, on ira lui glisser une petite piécette dans le slibard.
Oula, je laisse faire.
Pas de problème. Eh bien, on va écouter un petit morceau de la bande originale de Super Street Fighter 4. Je n'ai pas résisté au fait de mettre le thème de Guile.
Ça va
Ah oui,
avec tout.
j'avais pas fait attention. Je
Voilà.
sais, il avait les mêmes musiques que pour la dernière fois.
Mais ben non. C'est composé, alors c'est arrangé par Hideyuki Fukasawa. Ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et nous allons donc aborder la mort de la bagarre. Hein.
La mort d'une
Enfin,
certaine forme
disons.
de bagarre.
Oui, voilà, disons une espèce de grosse période de difficulté de la bagarre.
Le niveau 2, c'est un désert.
Alors dans l'épisode
C'est ça.
précédent, on s'était quitté genre Tekken, c'était trop bien, ça marchait du feu de dieu. Virtua Fighter, c'était trop bien, c'était trop joli en 3D, trop bien animé. Et en fait, c'était ça qui marchait à l'époque, c'est la baston 3D. La baston 2D, ah bah c'est un peu plus compliqué.
Ouais, 94, effectivement, il y a quelques grands noms qui s'en sortent encore. On pense à King of Fighters 94.
Bah, King of Fighters 94, c'est là où King of Fighters démarre, et les versions les plus connues vont être surtout 98 et 2002, parce que c'est les gros épisodes crossover. Enfin, t'auras aussi Street Fighter hein, qui va continuer à vivre.
Tout à fait.
Quelques licences un peu sympas sur lesquelles dont on va parler après. Mais la 2D, de manière générale, un peu juste au niveau baston, déjà ça fait plus vendre à l'époque. Hein. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de cette période-là où un jeu en 2D, c'est nul quoi.
C'est ça, c'est ce qui fait qu'à un certain Castlevania Symphony of the Night, c'est pas si bien vendu que ça parce que bah, les gens ils avaient acheté. Quand t'as foutu 1500 francs dans ta PlayStation, bah, t'as envie de jouer à des jeux 3D qui t'en foutent plein la vue.
C'est ça. Et donc il y a cet aspect-là qui fait que bah, forcément les jeux de combat, la Street Fighter, qui sont encore très 2D avec des très beaux sprites, hein, c'est vraiment une excellente période dans tout ce qui est 94 à début des années 2000 en termes de jeux de combat 2D. On a quelques merveilles. Je pense qu'on abordera un petit peu après. Mais c'est vraiment des jeux qui sont très 2D, très arcade aussi. Parce que les supports principaux de sortie sont les bornes d'arcade. Mais à cette période-là, les machines de salon font souvent aussi bien, voire dans certains cas un petit peu mieux quand on arrivera plutôt au niveau de la PlayStation 2 et de la Dreamcast. Donc en fait, les gens, ils ont plus tendance à jouer chez eux que dans les salles d'arcade. Parce qu'en plus, ça coûte cher, hein, jouer sur salle d'arcade. Hein. C'est 1 € la partie, mais...
Clairement, enfin surtout au Japon, c'est pas si cher que ça, puisque généralement ça coûte 100 yens, donc c'est un prix assez réduit. Et puis t'as des soirées spéciales où effectivement tu payes une entrée pour faire de la compétition, donc là tu peux rester toute la soirée, mais ça n'empêche pas que s'entraîner entre guillemets en salle d'arcade en dehors de ce genre d'événement, c'est effectivement un petit budget.
Oui, et puis t'as des portages console, mais bon, ils sont pas forcément, ils sortent pas en même temps. Il y a des petites différences avec l'arcade. Donc ouais, c'est un genre qui est typiquement arcade comme le Shoot 'em up qui va vraiment perdre de vitesse durant cette période. Ça va notamment se marquer aussi par des trucs un peu tout con, mais Street Fighter 3 qui va sortir en 96 ou 97 va être un énorme échec dans sa première version. Qui est déjà une version qui est un petit peu buggée, mais en plus qui va prendre le risque de virer tout le cast d'origine de Street Fighter 2, qui est un jeu culte hein, quand même, on le rappelle, au point que tellement culte que pour un des personnages de FF6, il faut faire des quarts de sec pour faire ses coups spéciaux.
Oui, enfin, on le dira jamais assez, mais Street Fighter 2 a été plus qu'une pierre angulaire. C'est quasiment le papa de tous les jeux que vous avez là. C'est le papa. C'est pas le premier. C'est pas forcément celui qui l'a fait le mieux, mais c'est vraiment celui qui l'a fait le mieux le premier, en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est
Oui, puis là,
ça a
il a
été le bon
extrêmement bien
moment, le bon
codifié.
endroit, le bon truc, quoi. Et il a codifié énormément de choses, effectivement.
J'en profite pour glisser un petit truc. Le Capcom Arcade Museum, il est gratuit sur Switch et après tu payes pour acheter tes jeux. Mais le Street Fighter 2 d'origine est gratuit. Donc techniquement, Street Fighter 2 est gratuit pour n'importe qui à une Switch.
Bah, c'est une bonne
Ah, pas
nouvelle, ça.
mal.
Pour les gens qui n'ont jamais joué à Street Fighter 2, j'espère que c'est pas le cas de ceux qui nous écoutent, mais on sait jamais. Allez-y les gars, hein, pas de problème, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Donc ouais, pour revenir sur Street Fighter 3, donc la première version voilà, va être un peu un échec puisque le fait que le casque soit complètement changé, ça va pas faire revenir les gens. On va avoir SNK aussi de son côté, donc lui qui va continuer à faire son King of Fighters annuel, tous les ans un nouvel épisode. Ce qui est assez intéressant en plus l'évolution de King of Fighters parce qu'ils vont tenter des trucs à chaque nouvel épisode, changer un peu leur système de team puisque c'est du 3 contre 3, mais quand tu perds la barre de vie dans les personnages évidés, tu passes au suivant. Mais même eux vont être dans la merde aussi, puisque fin 2000, fin 99, fin 2000, ils vont commencer à avoir des gros problèmes de thunes. Alors j'ai fait la version rapide dans le conducteur, parce au bout de, je crois, quelques années, ils vont devenir SNK Playmore, mais il y a une histoire de... SNK est racheté par des Coréens, mais pas la licence King of Fighters qui est détenue par quelqu'un d'autre. Et en fait, tout ça va se mélanger. À la fin, il y a Playmore qui arrive, qui rachète tout, mais du coup, ça va aussi compliquer la vie de leur côté. Donc voilà, c'est une période qui est un petit peu compliquée en termes de succès du genre, qui a toujours sa petite niche populaire. Mais les créateurs de jeux de baston 2D, c'est un petit peu comme Nintendo quand ses consoles marchent pas. C'est dans ces moments-là où ils font les plus grandes dingueries. Et en fait, c'est une 94-2000, c'est une période des titres assez cultes, notamment Darkstalkers, qui est un petit peu qui répond à la question, mais qu'est-ce qui se passe si on arrête de mettre des humains, mais qu'on met des monstres de films d'horreur à la place? Et ça donne un jeu où on peut se défendre en l'air, on peut se déplacer en l'air en faisant un air dash, qui va devenir un truc un peu essentiel. Si vous avez joué à Dragon Ball Fighters, vous voyez très bien de quoi je parle. Ça donne des personnages qui ont des animations absolument délicieuses. Darkstalkers. C'est encore un jeu qui est très très agréable à regarder. Et en fait, ils ont tenté plein de trucs dans ce jeu, qui va donner notamment tout un sous-genre, donc ce qu'on appelle les air dashers, et dont issu notamment Guilty Gear. Il va y avoir tous les jeux de baston issus des licences Marvel que va faire Capcom, qui vont culminer à Marvel vs Capcom 2, qui est un jeu avec un roster de plus de 50 personnages. Alors, c'est beaucoup de reprises de sprites, hein, avec des Hadouken qui font la taille d'un Kamehameha.
Oui, c'est vrai que le. Alors, Marvel versus Capcom, j'en profite pour glisser un petit truc. C'est vraiment. Ça, c'est un défouloir extraordinaire. C'est vraiment. Ça simplifie et ça streamline énormément le système de jeu. C'est-à-dire que c'est plus facile à apprendre, toujours aussi difficile à maîtriser, mais plus facile à apprendre. Et effectivement, là, les mecs, ils se sont tapés des délires complets, quoi. C'est vraiment, on y va à fond. Et effectivement, il y a vraiment des grosses dingueries dans Marvel vs Capcom. C'est toujours très, très, très fun à jouer. C'est extrêmement accessible.
Ouais, ça, c'est un truc assez chouette. Mais par contre, si tu veux te lancer à fond, ce qu'on appelle le skill ceiling, donc le plafond de technique, de compétences, il est aussi très, très élevé. Hein, quand les Américains, oui. C'est vraiment leur jeu à eux. Et quand tu regardes comment ils se déplacent avec certains personnages, t'es là genre, moi je sais pas faire ça, hein, je comprends pas ce qui se passe. Et en plus, c'est un jeu où voilà, t'as des équipes de 3, tu peux appeler un de tes coéquipiers en plein milieu pour échanger avec toi ou pour faire une attaque spéciale. Donc ce qui fait qu'en fait, quand t'as un mec qui est en train de te bloquer, bah, tu envoies ton assist pour t'aider. Et toi, pendant que tu récupères ton coup, bah, il est dans le coup de ton assist. Bah, ça peut aller très très loin. C'est très fun à jouer même quand t'es débutant. Un petit peu dans le même genre, on va avoir le premier Guilty Gear, tout simplement, qui va reprendre certaines idées de Darkstalkers et les pousser un peu plus loin, avec vraiment, comme je disais, la possibilité de dasher en l'air, de faire des doubles sauts. C'est même une série qui va instaurer un truc que j'adore, mais que même moi, arrêté de faire, mon grand regret, c'est que tous les personnages ont un coup qui est un instant kill, et qui te fait gagner automatiquement le round si t'arrives à le placer. Par contre, bon, c'est pas évident à faire.
Ouais, bon courage pour le placer.
Mais par contre, quand t'y arrives, tu peux voler des rounds, c'est assez beau. Et pour finir sur le dernier petit jeu culte de l'époque, bah d'ailleurs, les jeux dont je vous parle, à part Darkstalkers, sont tous sortis en 99-2000, hein, globalement. C'est Garou Mark of the Wolf, dont la suite sort très très bientôt. Et le premier Garou, pour le coup, est un jeu un peu plus posé que ce que je viens de citer. Hein. On est plus sur du Street Fighter avec du combat au sol. Mais c'est un jeu avec la 2D absolument délicieuse, qui est très facile à prendre en main aussi, je trouve, avec pas mal de possibilités de monter en compétences. Mais je trouve qu'il est très agréable à jouer. Et pour finir, le jeu culte Street Fighter 3 First Strike, donc même si le jeu était un échec, c'est un jeu qui est devenu extrêmement culte, notamment grâce à un clip de Levo qui s'appelle Levo Moment 37, qui a un peu fait passer le jeu dans le panthéon des jeux cultes de combat où donc Dago Umehara utilise la technique spécifique de Street Fighter 3 qui est le pari, qui consiste à appuyer sur avant. Alors la garde dans les jeux de combat, je rappelle, c'est l'arrière. Et pour faire le pari dans Street Fighter 3, il faut appuyer sur avant avec un timing très précis. Il va parer une de super de Chun-Li qui est genre un combo de 16 coups qui sort très très vite. Il va tout parer et gagner le round derrière alors qu'il avait plus de vie. C'est un truc assez incroyable. Il est très très culte.
C'est effectivement un truc assez incroyable à voir parce que la réaction de la... On voit effectivement le jeu, mais on a surtout la réaction de la foule.
C'est ça.
Parce qu'effectivement, t'as le long combo, vous imaginez 16 coups, faut tout parer, c'est pas tout à fait du frame perfect, mais c'est pas très loin.
Ouais, c'est ce genre, t'as 3 frames ou un truc comme ça. En 60 FPS, c'est pas beaucoup.
C'est vraiment, c'est très 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 serré. Oui, ça ressemble à un Garden Impact, hein, on nous demande dans le chat, mais effectivement, ça ressemble un peu
à ça. C'est un peu l'idée.
C'est un peu l'idée, et donc le mec part effectivement les X coups, alors sachant que c'est pas un timing, c'est pas genre, comme un métronome quoi, c'est vraiment chaque coup va avoir un timing un petit peu précis, donc faut connaître le truc d'en face, le mec part absolument tout, et derrière il lui met une grosse patate et c'est fini quoi.
En fait il lui renvoie ça super dans la gueule quoi.
C'est ça, c'est... Ouais, ce moment est cultissime, je vous le recommande, ne serait-ce que pour la réaction de la foule, c'est assez...
C'est ça qui rend Street Fighter 3 First Strike assez culte, alors en plus c'est un jeu qui est vraiment magnifique, hein, parmi les plus belles animations 2D, je pense que le plus beau qu'a fait Capcom en animation 2D, c'est vraiment un plaisir à regarder et à jouer ce jeu.
Quand tu dis échec, c'est échec commercial.
C'est un échec commercial et populaire, c'est un jeu qui est actuellement culte, mais c'est un peu comme Nier, tu vois. Nier, ça a pas du tout marché quand c'est sorti, mais il y a juste une petite communauté de fans qui était vraiment dédiée, et depuis le jeu a eu sa réputation. Okay. SF3, c'est ça. Donc voilà, sur la 2D, il y a vraiment des titres cultes, mais c'est une période un peu particulière, et quand même pas mal d'échecs commerciaux. Ah oui, il y aura aussi même un crossover entre Capcom et SNK, qui lui aussi est très populaire.
Pendant ce temps-là, alors côté 2D, effectivement, on fait des trucs assez ouf, et on l'a déjà dit, du Garou, du Darkstalker, du Marvel vs Capcom, du SF3, on a quand même des, on va dire, de la 2D qui résiste un petit peu, même si ça devient un peu niche, la baisse de fréquentation des salles d'arcade.
Et puis là, j'ai pris les titres cultes, hein, y a plein d'autres petits essais qui existent un peu partout, si vous êtes curieux. Les
Capcom Fighting Showdown, Collection, par exemple.
Ouais, exactement. Je recommande les Capcom Fighting Collection, si vous êtes curieux. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de ces titres-là. Le prochain, moi, je suis très, très impatient d'y jouer. D'ailleurs.
Beaucoup, effectivement, de titres, entre guillemets, un petit peu secondaires, des trucs qui sont sortis en arcade et qui n'ont pas forcément été portés sur console derrière. faute de succès, mais qui sont quand même tout à fait corrects. Mais pendant ce temps-là, j'allais dire, la 3D se porte pas si mal que ça, finalement.
Oui, bah, ça on en a parlé la dernière fois, hein. Donc, Tekken ça marche bien, mais c'est des genres qui, bizarrement, tu vois, Tekken, Soul Calibur, c'est des titres consoles pour la majorité des gens. Parce que les portages consoles sont souvent meilleurs que les versions arcade.
Oui, alors c'est le cas, on rappelle, de, je crois que c'est Soul Calibur, ou la version Dreamcast, qui est sortie donc en 1999 avec la console, était meilleure que la version arcade, même d'un point de vue purement technique. Hein. Quand tu regardes le nombre de polygones poussés, la qualité des textures, les animations, le machin, tout est mieux dans la version console que dans la version arcade. Donc clairement, on a tout un tas de jeux 3D qui vont beaucoup mieux marcher dans la version console que dans la version arcade. J'ai un autre exemple à ce sujet-là, il y a Mortal Kombat 4, qui est sorti en arcade, qui a marché en arcade, hein, c'est un jeu qui a fonctionné correctement, mais en fait il s'est beaucoup plus vendu sur console, tellement que finalement Mortal Kombat 5, qui est Deadly Alliance, ne sortira jamais en arcade, ça n'a plus aucun intérêt pour l'éditeur.
Oui, bah d'ailleurs, Mortal Kombat, ça va passer un peu plus sur du jeu 3D à l'époque, hein, il me semble.
Tout à fait, oui, puisque le dernier Mortal Kombat alors, on va dire en 2.5D, parce que c'est un peu compliqué, c'est Mortal Kombat 4, qui a effectivement des graphismes en 3D, mais qui reste un jeu de combat en 2D, c'est pas un jeu en arène, on peut pas aller dans la profondeur, on peut pas tourner autour du glandu d'en face, même s'il y a certains coups qui te font un peu aller dans la profondeur avant-arrière, mais c'est à partir véritablement de Deadly Alliance en 2008-9, si je dis pas de bêtises, que effectivement là ça passe full 3D complète, avant de revenir à de la 2D, hein, finalement, on va voir que c'est un grand cycle. On a aussi la naissance un petit peu de ce qu'on appellera du Platform Fighter ou de l'Arena Fighter.
Ouais, alors c'est pour le coup, c'est deux trucs un peu distincts. Donc Platform Fighter, vous connaissez Smash Bros, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter ce que c'est. Et l'Arena Fighter, je trouve que les représentants, souvent, c'est des jeux tirés d'anime, donc genre des Dragon Ball, des Naruto. Et en fait, c'est des jeux qui restent des jeux de combat, hein, qui sont moins compétitifs. Alors, dans Smash Bros, il y a débat. Mais qui, en tout cas, ont une approche beaucoup plus casual. Enfin, Smash Bros, par exemple, il y a des objets, des commandes assez simples. Les Budokan Tenkaichi, c'est des combos assez simples. Il y a des mécaniques de défense qui sont un peu plus faciles à prendre en main, hein, des attaques spéciales qui sont faciles à faire. Le but, c'est aussi que, bah, notamment sur des titres adaptés de licences connues, que les gens puissent s'amuser. C'est des styles de jeu qui sont souvent un peu regardés avec dédain par les joueurs de jeux de combat traditionnels. Mais moi j'aime bien parce que du coup c'est un peu des fouloirs, quoi. Faut pas trop se prendre la tête, et puis ça fait plaisir de jouer avec des persos qu'on aime bien, notamment.
Ouais, j'allais dire, effectivement, t'as des jeux qui sont peut-être moins techniques, peut-être un peu plus, on va dire, hasardeux, au sens le hasard et l'aléatoire jouent quand même un grand rôle. Je pense à Smash Bros, si t'es pas en Final Destination sans objet, globalement, il y a quand même beaucoup de trucs qui reposent un peu sur le coup de moule, on va se le dire.
Oui, c'est un peu le bordel.
Ouais, bah bordel. En fait, Smash Bros, tel qu'il a été pensé à l'origine, c'est pas du tout un jeu compétitif. D'ailleurs, quand tu regardes les gens qui jouent à Melee en compétitif, ils jouent pas au même jeu que nous quand on joue à Melee en 2002. Hein.
Oui, non, mais de toute façon, c'est clairement ça. Donc effectivement, t'as tout un tas de... Ça va donner quand même tout un tas de spin-off avant l'heure. Je pense à Beautiful Joe, Red Hot Rumble. Voilà, finalement... Power Stone. T'as l'impression que chaque petit éditeur peut aller faire soit son Platform Fighter, soit son Arena Fighter, parce que finalement c'est entre guillemets pas si compliqué à faire que ça. Je mets des très très gros guillemets là-dessus.
Non, t'en as qui font des trucs assez intéressants, genre t'as le jeu de combat Final Fantasy Dissidia, sorti sur oui. PSP, qui lui est un jeu de combat, mais comme c'est un jeu portable, c'est surtout un jeu solo. Mais c'est des mécaniques d'arena, d'Arena Fighter, où tu te déplaces dans une arène en 3D, tu peux te cacher en utilisant le décor. Donc il y a vraiment aussi une volonté d'essayer de trouver autre chose que juste les carcans de Tekken et de Street Fighter. Et je trouve que c'est intéressant d'un point de vue variété de se dire la baston c'est pas juste un type de truc où on est face à face à se balancer des boules de feu avec des quarts de cercle, quoi.
C'est ça, c'est pas juste le versus fighting un contre un en ligne droite, t'avances vers l'adversaire et l'objectif c'est de contrôler du jeu. Non, ça peut être plein d'autres choses, le jeu de combat finalement. À partir du moment où t'as deux mecs qui se mettent sur la gueule, quelle que soit la façon dont ils se mettent sur la gueule,
c'est le jeu de combat. Il y a pas Bounet qui me demande est-ce que c'est mieux que Air Guys Dissidia. Alors j'en sais rien, mais a priori oui.
Voilà, moi je ne sais pas, je ne juge pas. Je ne me permettrai pas ça. Donc oui, on a une espèce comme ça de... Enfin, ce versus fighting va faire une espèce de traversée du désert, hein, clairement, on va se le dire, 94-2008. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes, hein, comme on l'a dit.
Non, bah en fait, t'as toute une... Bah, on a parlé des tournois, là où je parlais de l'Evo Moments. Donc l'Evo, ça va être un tournoi qui a bien marché aux US, notamment avec les communautés de Marvel versus Capcom. Au Japon, ils ont un tournoi qui s'appelle le Togeki, qui pour le coup se joue uniquement sur borne d'arcade, et avec une règle assez cruelle, c'est-à-dire que tu mets ta pièce dans la machine, et si tu perds, tu sors. T'as même pas de genre, faut gagner deux matchs de suite, non, faut en gagner un.
Ça, c'est un Battle Royale, le bordel.
Ouais, clairement. Ça s'appelle le Space Battle Opera, je crois, un truc comme ça.
Ouais, d'accord. Donc on y va comme ça, quoi.
Et bah, c'est un tournoi où il y a pas mal de joueurs pro actuels qui ont fait leurs premières armes. Le Togeki. Et après, c'est beaucoup d'événements communautaires, parce qu'à l'époque, l'online n'existe pas, rappelons-le. Tu vas aussi avoir beaucoup de jeux, bah, de gens qui vont commencer à faire aussi leurs jeux sur PC. Des jeux d'origine, alors j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais t'as pas mal voilà, de titres du début des années 2000, sortis uniquement sur PC, qui parfois ont une version arcade ou une version console. Mais voilà, il y a aussi, c'est plus la communauté. Que ce soit en arcade au Japon ou dans les tournois aux États-Unis, qui fait vivre le genre que réellement les éditeurs avec des nouveaux jeux, quoi.
Voilà. Mais tout ça va changer en 2008, après la petite pause musicale, et voilà.
Quel suspense! Quel
incroyable!
C'est incroyable! Incroyable.
Non, on fait du storytelling maintenant. Hein.
Voilà. Et nous allons. Mais en même temps, ça ressemble un peu à une histoire, ce qu'on raconte avec ce truc de bagarre. À chaque fois que je réécoute l'émission, j'ai l'impression que c'est un peu Père Castor. C'est, comment dire, c'est Stéphane Bern qui se raconte la bagarre.
C'est Père Castagne.
C'est Père Castagne. Pas mal. Voilà. Donc, on va écouter une petite bande originale à laquelle je tiens beaucoup. C'est la bande originale de Soul Calibur 2. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Raise Thy Swords. Alors, c'est composé par beaucoup de gens, hein, Junichi Nakatsuru, Yoshihito Yano, Asuka Saki, Ryo Hamamoto, Ryuichi Takada et Junichi Takagi. Voilà, donc comme ça, il y a du monde au balcon. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes 30. À tout de suite. Et nous voilà de retour.
Tour !
Et donc, en 2008, alors que le genre du versus fighting est un petit peu moribond, hein, alors que finalement c'est devenu un jeu de niche, alors que plus personne n'y croit beaucoup, alors que les salles d'arcade ne sont plus fréquentées, qui revient sur son grand cheval blanc ?
Henri IV ?
Non.
Ah, Capcom. Mort,
Capcom revient, Capcom ressuscite finalement... re-révolutionne le genre une deuxième fois, j'ai presque envie de dire ça.
Ouais, il le révolutionne pas tant que ça, mais en tout cas, il le remet sur le devant de la scène.
Il le remet clairement sur le devant de la scène. C'est la sortie de Street Fighter 4 en arcade en 2008. Les portages console arriveront un tout petit peu après.
Ouais, 2009 de mémoire. Début 2009 de mémoire. Sur 360 et PS3.
Et donc, bah, effectivement, c'est une sorte de retour aux sources, malgré tout, hein, par rapport au SF3 dont on parlait tout à l'heure.
Bah, en fait,
sur certains trucs, pas sur tous.
Oui, ça va reprendre des mécanismes existants dans SF3. Mais principalement, si tu veux prendre Street Fighter 4, c'est Street Fighter 2, avec deux nouvelles mécaniques qui sont la Focus Attack, qui permet d'encaisser un coup, qui est le babé de Ryu dans Smash Bros. Ça me fera gagner un petit peu de temps en décrivant comme ça. Ça permet d'encaisser un coup et de riposter derrière. L'ultra combo, qui est comme les super, mais en fait, c'est une barre qui se remplit quand tu perds ta vie. Donc en fait, c'est une mécanique pour revenir dans la partie et qui fait souvent pas mal de dégâts. Et surtout, c'est un jeu qui est en 3D. C'est plus des sprites, c'est des modèles 3D sur un plan 2D, donc la fameuse 2,5D. c'est un petit peu de leur faute, hein, si on sort ce nom à tout le temps. Et le casting, c'est les 12 personnages de la version hyper... Enfin, non, c'est quoi? C'est Hyper Fighting.
Donc, alors, ça doit être Super Street Fighter 2 Hyper Fighting...
Enfin, c'est lui de base du jeu d'origine, les 4 boss, et avec ça, tu rajoutes... Le 8 de base.
Le 8 de base, c'est bien connu.
C'est ça, et avec ça, tu rajoutes 4 nouveaux persos, plus le nouveau boss de SF4 qui est 7. La version console aura des persos cachés issus de Street Fighter Alpha et Super Street Fighter 2.
Je pense à Akuma, me semble-t-il. Qui...
Exactement. Akuma, t'as Gouken, le maître de Ryu, qui était lui une légende urbaine aussi de Street Fighter 2. On en parlait la dernière fois des légendes urbaines sur Civilization, bah, Street Fighter 2 à la sienne aussi.
Oui, c'est ça, c'est le fameux « il faudra que tu battes... » Il faudra que tu battes Shenlong si tu veux y arriver, puis Shenlong n'existe pas, en fait, c'est une traduction de merde.
C'est une traduction ratée du Shoryuken.
C'est ça.
Et du coup, qui est devenue une rumeur comme quoi le maître de Ryu et de Ken est dans le jeu, et bah du coup, ils ont fini par le créer dans Street Fighter 4. Mais voilà, c'est un jeu qui se veut vraiment retour aux sources, donc t'as pas de mécanique de pari, t'as des personnages qui sont plus classiques, on va dire, que dans Street Fighter 3. Mais globalement, c'est un jeu qui marche très bien. Alors c'est une initiative de Yoshinori Ono qui a déjà travaillé sur Street Fighter auparavant, qui va devenir producteur sur la série jusqu'au 5e épisode, dont on reparlera peut-être un peu après, mais pas pour les bonnes raisons lui aussi.
Mais...
Et qui va proposer en fait à Capcom de sortir ce nouvel épisode. Alors Capcom n'y croyait pas trop, si j'ai bien compris à l'époque. C'est pour ça que ça a été fait en externe, entre autres, chez Dimps. Et Dimps, si vous vous souvenez du premier épisode de la baston...
Ouais, ça fait loin, ça fait loin.
Je vous avais parlé de Takeshi Nishiyama. Oui. Alors, le monsieur, entre autres responsable de Fatal Fury, Art of Fighting, King of Fighters et du premier Street Fighter.
Albatar.
C'est barré chez SNK, a fondé son studio et du coup, bah, Capcom s'est dit nous, on sait plus trop faire en interne aussi, on n'est pas sûr que ça marche. Du coup, on va demander au mec qui sait faire. Et du coup, il rappelle le papa de Street Fighter pour faire un nouvel épisode.
Tout le papa de la baston complet, c'est un mec. Un gars tout seul, il a tout fait, quoi.
C'est ça. Bah, déjà, la baston 3D, je vous rappelle que le gars qui a fait Virtua Fighter et Tekken, c'est le même. Hein.
Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. C'est un petit monde.
C'est un petit monde. C'est très con.
Le niveau de colère de ces gens, quoi.
C'est ça. Mais voilà. Et du coup, le jeu va sortir en arcade. Et c'est surtout la sortie console qui va vraiment faire monter la hype sur le jeu, parce que bah, forcément, les gens qui ont joué quand ils étaient gamins indos, c'est plutôt eux qui présentent les No Life, les jeuxvideo.com, les Gamekult, donc forcément, eux, bah, ça leur parle de ouf, ce jeu.
Ouais, je me suis permis deux, trois petites anecdotes dans le conducteur, mais il y a eu une rupture de stock de stick arcade chez Micromania. Un vrai truc, hein, c'est-à-dire que les gens achetaient Street Fighter 4 sur PS3 ou Xbox 360 et achetaient des sticks arcade, ce qui est... T'as pas besoin de ça pour jouer à Street Fighter 4, mais c'est vrai que c'est quand même pour la hype, et il y avait vraiment des ruptures de stock de stick arcade dans certains magasins Micromania, notamment dans les centres-villes des grandes villes de France. Et je me permets aussi de rappeler un magnifique 101% de No Life où il me semble que c'est... j'ai plus son nom, c'est pas grave, qui présentait le 101%, qui a dit bah, on va faire un 101% Street Fighter 4, donc il est allé chez tout le monde, donc il prenait son stick, il prenait son Street Fighter 4, et il allait chez les gens, il faisait juste une bagarre et ensuite il se rebarrait chez un autre. C'est le truc était. Voilà. Et à chaque fois c'était machin versus avec juste, tu sais, l'écran de versus. Et puis là, je crois qu'il y a à peu près toute la rédac qui y est passée, c'était quand même assez marrant. Mais vraiment, je fais un SF4 chez l'habitant, quoi.
On dirait ce gars dans les films d'arts martiaux qui va de dojo en dojo pour casser la gueule au plus fort et repartir avec le panneau.
C'est exactement ça, quoi. On est exactement dans ce genre de truc-là. Il y a un côté, il y a eu un côté très, on en reparlera probablement, mais ce SF4 a aussi créé un petit peu des communautés, hein, finalement. Il a recréé de la communauté autour du jeu de combat, à dire, voilà, un jeu de combat, c'est t'es avec ton pote sur le canapé, et puis tu te mets sur la gueule.
Ah, pas que
et puis,
sur voilà, le canapé, quoi. Du coup.
Et pas que sur un canapé. Et on va y venir.
La grosse nouveauté de cet épisode, outre le fait que, c'est surtout, il y a un mode en ligne sur la version console.
Oui.
Avec un système de classement, donc tu peux grinder des points, tu peux te comparer aux autres. Alors, ce qui implique aussi quelques comportements très toxiques de mecs qui se déconnectent quand ils sont sur le point de perdre. Mais il y a un côté aussi, c'est pas juste, tu dois trouver quelqu'un à côté de chez toi qui est aussi bon que toi pour le jeu, parce que le jeu de combat, s'il y a un trop grand niveau de différence, c'est compliqué. Tu t'amuses pas autant. Mais du coup, il y a vraiment ce côté, bah, tu peux jouer en ligne. Et ça aussi, je pense, ça va ramener du monde. Moi, à l'époque, c'est aussi ce qui m'avait un peu motivé à y jouer, parce que c'est se dire, bah, c'est cool, je vais pouvoir jouer avec des personnes que je connais pas en ligne. Moi, je connaissais pas du tout Street Fighter, hein, j'ai découvert avec Street Fighter 4. Et vraiment, ce que j'ai vu du jeu m'a beaucoup plu. Donc, je me suis dit, je vais jouer au jeu. Et puis, je vais tenter de jouer Vega, pardon, Balrog, pardon. Le ninja espagnol,
Les griffes, ouais.
hein, qui est super dur à jouer.
C'est pas le perso le plus simple. Hein. Ça l'a jamais été, hein, que ce soit dans SF2 ou dans SF4, bon, c'est compliqué.
C'est ça. Mais du coup, ouais, y a vraiment une grosse émulsion autour de ce jeu. Ben, justement, on parlait de la communauté, ben, il y a des tournois qui vont être relancés. Bon, les gros classiques type Evo, ben, forcément, vont mettre le jeu à l'honneur. C'est là aussi où ben, y a YouTube aussi à l'époque, hein, qui commence à bien devenir une habitude chez beaucoup de monde. Alors à l'époque, c'est toujours 10 minutes de vidéo. Mais du coup, bah, t'as des gens qui se disent, on va récupérer les matchs, des tournois et compagnie, et on va les mettre sur YouTube. Et il y en a qui vont se dire aussi, on va les commenter. Donc c'est là, par exemple, où t'auras Ken Bogard, qui va, grand commentateur de Street Fighter en France, toujours actif d'ailleurs, il va commencer à faire ses premières vidéos et aussi à faire connaître le jeu. Donc ce qui fait que des gens qui découvrent Street Fighter, qui connaissent pas forcément le jeu ou qui n'ont pas forcément le jeu, sont aussi familiers avec ce qui se passe parce que bah, tu as d'autres supports pour découvrir le jeu que juste aller jouer à la salle d'arcade.
Oui, effectivement, tu as aussi ce phénomène-là où, en plus d'être en salle d'arcade, d'être très démocratisé sur console, d'avoir du online, donc toujours la possibilité de te foutre sur la gueule avec quelqu'un qui n'est pas l'ordinateur mais qui est un vrai humain, c'est pas rien. Hein. Dans du jeu de combat, c'est quand même, surtout du versus fighting, c'est quand même essentiel d'avoir en face des adversaires, on va dire crédibles, mais humains, c'est quand même le mieux. Tu as aussi. Effectivement, c'est une espèce de perfect storm finalement Street Fighter 4. T'as aussi les tout débuts de YouTube. Tu as tout un tas d'événements e-sport qui commencent à être diffusés. Alors Twitch, je crois que ça arrivera un tout petit peu plus tard, mais t'as quand même déjà des plateformes comme GameStream qui existent à cette époque-là, qui commencent à faire du streaming de ce genre de choses-là. Donc t'as tout un phénomène autour aussi. C'est-à-dire que le jeu n'arrive pas tout seul, j'ai envie de dire ex nihilo. Il arrive aussi dans une atmosphère qui est très favorable à ce type de jeu-là et à ce type de compétition.
Bah, tout à fait, et puis je pense que y a aussi ce côté, ben, comme maintenant tu as Internet et tu peux échanger des jeux qui sont un peu obscurs aussi, qui ont des mécaniques parfois un peu cachées, des techniques un peu spéciales, ben, les gens peuvent aussi les partager sur les forums, ce qu'il n'y avait pas en 91, parce que Internet n'existait pas vraiment d'un point de vue domestique. Donc vraiment, tu as tout un effet de communauté qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce que d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté, ça ne me fait que grossir, je pense. Qui a été lancé par ce jeu, et c'est aussi pour ça qu'il est assez essentiel, puisque t'as des tas de joueurs qui sont encore actifs actuellement, qui ont commencé avec Street Fighter 4, et je parle que ce soit aussi bien dans les tournois que des gens comme moi qui ont leurs deux petits titres auxquels ils aiment bien jouer. Ben voilà, SF4 pour beaucoup, ça a été un début, comme pour SF2 il y a quelques années.
Tout à fait. D'ailleurs, SF4, il y aura plein de versions aussi, hein, parce que c'est
Ah!
Capcom.
Allez, jouons un petit jeu ensemble! Est-ce que Street Fighter 4 Dash, ça existe par exemple?
Je dis non.
Moi, je dis oui.
C'est un non.
Ah,
Est-ce qu'il y
merde.
a un Super Street Fighter 4?
Oh, je dis
Oui,
oui.
oui, oui.
Est-ce qu'il y a un Super Street Fighter 4 Arcade Edition?
Oui,
Je
oui.
dis oui.
Est-ce qu'il y a un Super Street Fighter 4 Arcade Edition 2012?
Putain, je dis oui.
Mecton, il est bon là, il est tout bon pour l'instant. Voilà, bon, c'est un peu pour rire. Après, il y a aussi Ultra Street Fighter 4 qui sera la version finale. Mais voilà,
Enfin,
il y en a
pardon,
eu
il y a
quelques-unes.
Ultra Street Fighter 4 de Final Version, et puis après il y a Ultra Street Fighter, Super Street Fighter 4 3D Edition.
Oui,
Je
alors celle-là, il y a la version 3DS, auquel tu as rejoué d'ailleurs, du coup, si
Oui.
tu peux nous en parler un peu.
Alors c'est extraordinaire cette version 3DS. En fait, c'est la vraie différence avec les versions, on va dire, un peu entre guillemets, un peu sérieuses, c'est que les décors ne sont pas animés. Ce sont des décors qui sont figés, en fait.
C'est des JPEG.
Ouais, en gros, c'est du JPEG, quoi, parce que je pense que ça coûtait un peu cher au niveau machine à animer, mais t'as toujours le style graphique, ça marche pas trop mal, en vrai, c'est vraiment, ça marche bien, c'est vraiment Street Fighter 4, quoi, il n'y a pas de doute là-dessus, les timings sont les mêmes, t'as les focus attack, t'as la barre de super, le machin, le truc, tout ça marche très très bien. Ce qui est un peu complètement cassé dans le jeu,
mais qui est très drôle du coup, c'est que tu peux mettre sur l'écran tactile, tu peux choisir des raccourcis à mettre. Et les raccourcis, ça peut être un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, par défaut, le jeu te propose, je crois que c'est saut, une garde, et puis genre... Alors, je sais pas si la focus attaque, mais c'est le truc où il faut appuyer sur plein de boutons en même temps, qui est pas forcément très pratique à faire.
Les ultras ?
Je crois que c'est les ultras, ouais.
Ah, parce qu'il faut appuyer sur trois boutons de pied ou trois boutons de poing, donc c'est super galère à la manette.
C'est ça. Donc l'idée, c'est que t'as les trois boutons de pied et trois boutons de poing qui sont accessibles directement. Donc en fait, tu peux faire avant trois boutons de pied simplement en appuyant sur l'écran tactile. Ça, c'est la conf par défaut. Mais en fait, tu peux mettre n'importe quoi sur l'écran tactile. Y compris des personnages qui sont des personnages avec des charges.
En fait, donc tu peux dois maintenir une direction qui est souvent bas ou arrière, ce qui fait que tu peux pas bouger.
C'est ça. Enfin, en tout cas, t'es un peu plus figé, t'as pas la même façon de jouer. Bah, tu peux faire une torpille avec Honda en appuyant juste sur un bouton, quoi.
Et en avançant.
Voilà, donc ça devient assez pété. Mais voilà, mais si tu n'en profites pas, même avec la configuration par défaut, t'as juste le 3.3 pieds accessible directement, bah en fait c'est vachement pratique, ça rend le jeu vachement accessible. Et c'est une version, je trouve, super agréable à jouer, que ce soit en 2D ou en 3D d'ailleurs, parce que la 3D est vraiment de très bonne qualité.
La 3D jaillissante,
tout à fait. Ça fait partie des premiers jeux, c'est-à-dire quand t'achetais ta 3DS en 2011, c'est le premier jeu que t'achetais, en gros, hein, t'es pas beaucoup, beaucoup de jeux disponibles.
Oui, c'était un jeu de sortie, de mémoire.
C'était un jeu de lancement. Et pour la petite anecdote, donc, c'est un des programmeurs de l'équipe originale de Street Fighter 4 qui avait fait ça sur un coin de table pour rigoler, pour tester la 3DS, genre, tester ce qu'il pouvait faire avec. Donc, il avait juste dit, je vais aller faire 3-4 animations, machin, et dans un petit décor, ils avaient fait un tout petit truc. Ils l'ont montré à Nintendo, qui aurait dit, alors, c'est une petite histoire dans la grande, hein, mais qui aurait dit, putain, c'est génial, faut absolument qu'on le montre au CES cette année. et en fait, c'est pour ça que le jeu finalement a été développé. C'était juste à l'origine une petite démo en mode, hey, pour rigoler, on a fait un portage de Street Fighter 4, il y avait rien, quoi. Il y avait deux persos, un décor en carton, c'est tout, quoi. Mais bon, comme quoi.
Ouais, c'est vraiment Street Fighter 4, voilà, ça marchait vraiment bien, au point que ça a été aussi porté sur mobile de mémoire. Il y a une version mobile, alors qui n'est pas aussi sérieuse que les versions consoles, ouais. Mais ça existe aussi. Et après, les différentes versions consoles, hein, c'est surtout de l'ajout de personnages, mais éventuellement un ou deux coups en plus. Souvent, je crois qu'à partir de Super Street Fighter 2, un second ultra, une seconde ultra possible par personnage.
Ouais, que tu choisis à la sélection, c'est ça ?
C'est ça.
C'est cette version sur 3DS, du coup.
C'est ça. Et bah, de toute façon, je crois qu'à partir du moment que Super Street Fighter 4 est sorti, c'est sur celle-là que tout le reste est basé. Hein. Dans les faits, Street Fighter 4, comme beaucoup de premières versions de jeux de baston, c'est des versions un peu pétées, avec parfois un équilibrage un peu à la ramasse. Et c'est souvent la version Super qui marche bien. Et là, Super Street Fighter 4, je crois que quand il est sorti, tu devais avoir... je crois qu'ils ont doublé le nombre de persos en allant piocher dans beaucoup d'anciens personnages. Et c'était assez ouf. Et après, bon, ils ont juste 2-3 par moment. Donc ouais, il y a eu pas mal de choses. Ça a aussi motivé côté Capcom à sortir de nouveaux jeux de combat.
C'est ça, on a eu une espèce de regain d'intérêt finalement pour le versus fighting qui a donné lieu à un Marvel vs Capcom 3.
Alors qui est un jeu encore une fois extrêmement culte aux US, qui a aussi son lot de versions améliorées, puisque 6 mois après la sortie du jeu d'origine sort Marvel vs Capcom 3 Ultimate.
6 mois.
Ouais, c'est vraiment dans Capcom. L'année, tu vois. Vraiment. Et en plus, c'est une période où les DLC existent déjà, mais ils n'ont pas encore le réflexe de proposer des versions, les versions améliorées en DLC, tu vois. Donc tu rachètes 60 balles.
Jeu, ouais.
C'est vraiment un autre jeu. C'est un truc qui est très récent en réalité. Ce côté, on met à jour la version au fur et à mesure, t'as pas besoin d'en racheter une nouvelle si tu veux continuer à jouer.
Et
faut payer les DLC.
On pense aussi à Tatsunoko vs Capcom, qui est une exclusivité Wii, si je ne dis pas de bêtises.
Alors qui est sorti en arcade.
Ah, qui est sorti en arcade, d'accord.
Il me semble qu'il y a une version arcade. Il y a deux versions du jeu. Là, nous, on a la deuxième en Europe, puisque la première est restée exclusive au Japon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Tatsunoko, c'est un studio d'animation japonaise, notamment connu pour Gatchaman, qui s'appelle en France...
La guerre des planètes, un truc comme ça.
Un truc comme ça, ouais. Et qui est un studio qui est vraiment spécialisé dans l'espèce de super-héros à la japonaise, globalement.
Oui, c'est un Super Sentai.
C'est ça. Ah, voilà. Oui, dans ce genre-là.
C'est Tatsunoko vs Capcom, qui est effectivement... Alors, Je sais pas si ça s'est bien vendu, ça, honnêtement, je saurais pas dire. Moi, je sais que j'ai pas trop aimé par rapport à un Marvel vs Capcom qui est assez fun à jouer et qui marche bien. Je trouve que Tatsunoko, il y a quand même quelques personnages qui sont un peu cassés, notamment les gros robots. C'est rigolo à le jouer, mais en fait, c'est vite chiant. T'as un personnage qui occupe littéralement plus de la moitié de l'écran.
Et en plus, qui doit avoir un peu d'armure pour être invincible, ce qui fait que des fois tu le tapes dedans, il s'arrête pas, il continue son cours.
C'est ça, voilà. Je trouve que c'est peut-être un peu moins réussi, ça n'empêche que c'est un jeu culte, hein. Honnêtement, ça reste très fun à jouer. Et encore une fois, dans la grande tradition des Marvel, des Capcom Versus, c'est un jeu qui est extrêmement accessible parce que t'as vraiment littéralement trois boutons et puis c'est parti, quoi. Donc c'est très agréable de ce point de vue là, mais je trouve ça moins réussi dans l'ensemble qu'un Marvel vs Capcom, quelle que soit la version d'ailleurs. Voilà. On a eu aussi une petite curiosité, je sais pas si t'as envie d'en parler, alors je sais pas si c'est Street Fighter vs Tekken, c'est ça?
Alors c'est bien dans cet ordre là, donc de la même manière qu'il y a eu un Capcom vs SNK, et que SNK de son côté a fait un SNK vs Capcom, Yoshihiro Ono est un grand ami de Harada, qui est le producteur de Tekken. On les voit souvent sur scène ensemble à l'Evo, par exemple. Et à un moment, ils se sont dit, on va annoncer un double projet, Street Fighter vs Tekken, qui, grosso merdo, va reprendre les modèles et le moteur de Street Fighter 4, rajouter des persos de Tekken qui, du coup, vont passer d'un jeu 3D à un jeu 2D. Donc c'était quelque chose qui était un peu une curiosité. Et de son côté, Namco s'est dit, nous on va faire Tekken versus Street Fighter, donc le gameplay de Tekken avec les persos de Street Fighter. Le premier projet va sortir, et c'est un projet qui est assez compliqué en termes de qui va être assez mal reçu à cause de ses DLC. Notamment sur le disque, les gens à la sortie vont découvrir que 6 persos en DLC sont déjà présents sur le disque.
Ah, le fameux tu télécharges une clé de déblocage.
Exactement, et ça va pourrir le jeu. Alors après, moi j'y ai pas joué, donc je saurais pas dire s'il est bon ou mauvais. Il y a des fans du jeu, moi j'avoue que la DA de Street Fighter 4 avec les persos de Tekken, ça me vend pas du rêve du tout. Le jeu va se casser un peu la gueule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y aura une dernière version de Street Fighter 4, la version Ultra. C'est parce que, en fait, Capcom pensait que ça allait être Street Fighter vs Tekken qui allait devenir son nouveau jeu moteur en termes de vente et de tournoi, et pas du tout. C'est ça qu'ils ont, fait un peu de rap pour tenir jusqu'à Street Fighter 5. Et du coup, Tekken vs Street Fighter, vous vous dites, mais j'ai jamais entendu parler de ce jeu. C'est normal, il n'est jamais sorti.
C'est moche.
Je crois qu'ils n'ont jamais vraiment avoué chez Namco qu'ils avaient annulé le jeu. Mais on est beaucoup à penser parmi les gens qui observent un peu le milieu que la présence de Akuma, donc le personnage de Street Fighter dans Tekken 7, c'est un peu les restes de ce projet.
Ah oui, effectivement, ce serait pas... C'est pas complètement idiot, ce serait pas complètement inédit non plus, tu vois, qu'un projet comme ça. Si le Street Fighter vs Tekken a marché, mais en réalité est un peu controversé, est-ce que ça vaut vraiment le coup de remettre une pièce dans la machine?
Oui, et puis je crois qu'en plus, il y a eu des Tekken aussi, a pas été au top de sa forme à l'époque, parce que il y a eu un enchaînement genre Tekken 6, Tekken Tag 2 qui a pas très bien marché. Ce qui se voit dans le set qui est beaucoup plus. Qui est pas un scope énorme en fait pour un Tekken. Mais voilà, du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent que les Akuma, c'est le reste de ce projet, où on s'en dit on va en mettre un. Et comme Tekken, c'est globalement un jeu où les héros, c'est les méchants, on va mettre le méchant.
Ouais. Je vais en profiter pour glisser une autre grande série du jeu de baston dont on a déjà parlé, qui a connu aussi une espèce de petite renaissance à ce moment-là. Du côté de NetherRealm Studio. Donc NetherRealm Studio, c'est le studio qui a été fondé par John Tobias et Ed Boon, les gens qui sont à l'origine de Mortal Kombat. Et donc Mortal Kombat a fait une espèce aussi de petite traversée du désert, un peu de la même manière. On a parlé tout à l'heure de Mortal Kombat 5, alias Mortal Kombat Deadly Alliance. Ça a été suivi par Mortal Kombat, alors en France je crois qu'il s'appelle Mortal... Attends, aux États-Unis c'est Mortal Kombat Deception. Et en France, il s'appelle pas Déception, hein, forcément.
Oui,
c'est un peu compliqué.
Très vendeur.
C'est pas très vendeur, je sais plus comment il s'appelle exactement. Ça m'est sorti de la tête parce qu'effectivement, je ne connais que la version américaine. Mais voilà, c'est un petit renouveau aussi côté Mortal Kombat, parce que ça sort complètement du jeu 2D pour devenir un jeu qui ressemble beaucoup plus à un Tekken.
Il s'appelle Mystification. C'est pas mal aussi.
C'est pas mal non plus. Ouais. Donc il y a eu un premier petit renouveau
dire, à l'orée, on va dire, des années 2010, mais qui n'aura pas le succès conséquent qu'à Street Fighter 4, hein, c'est que tu sens que Mortal Kombat est un peu à bout de souffle. Ils vont continuer, hein, il y aura effectivement Mystification, Armageddon, tout ça, ce sont des numéros de Mortal Kombat qui, finalement, se réappuient sur Mortal Kombat 5 avec deux ou trois styles d'art martial par combattant, avec énormément de combattants, avec des arènes en 3D, avec effectivement toute une notion de profondeur et de personnages qui se tournent autour littéralement. Voilà, tu vas avoir toute une série comme ça qui va marcher, mais finalement pas tant que ça. À un moment, il y a un projet un peu rigolo qui s'appelle... alors, un peu à l'orée du Marvel vs Capcom, finalement, il y a le fameux Mortal Kombat vs DC Universe.
Ouais, je viens de percuter.
J'étais en train de me dire, ils l'ont pas fait. En fait, si, ils l'ont fait avant Injustice.
Ils l'ont fait avant Injustice, qui a plutôt bien marché d'un point de vue commercial, pas tellement d'un point de vue critique. Et le jeu est pas fou, on va se le dire. T'as tout un tas de trucs où tu sens que DC a mis une grosse pression pour que... Bah ouais, c'est Mortal Kombat, ok, mais on va quand même pas décapiter Superman, tu vois.
Oui, bah, il y a des chances que ce soit ça.
C'est quand même très 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 compliqué, et du coup, cette espèce de crossover, ça marche sans marcher, en fait. C'est un peu ridicule façon Mortal Kombat, mais en même temps, trop sérieux façon DC, donc c'est pas terrible. Et finalement... NetherRealm finit par retomber sur ses pieds, revenir à de la bagarre 2D aussi, revenir à quelque chose de plus technique mais de très différent de la proposition d'un Street Fighter avec Mortal Kombat 9 notamment, donc ça va enchaîner Mortal Kombat 9, 10, 11, puis Mortal Kombat 1 qui en fait est exactement dans cet état d'esprit, donc on revient à du versus fighting classique, à de la 2D classique. Et on abandonne ces histoires de style de combat, on essaye d'avoir des personnages qui sont plus différenciés, mais ça reste du Mortal Kombat avec ses petites particularités, avec...
Ces fatalités qui sont plus gore que jamais aussi.
Il y a ça aussi, ça fait partie de la signature du jeu, mais t'as aussi tout un système, alors c'est pas de la focus attack, mais tu as tout un système de, quand t'encaisses beaucoup de coups, ou que tu fais des coups un peu marrants, tu vas pouvoir profiter pour remplir une jauge qui va te permettre de sortir des coups un peu plus... bourrin, c'est-à-dire des coups spéciaux, on va dire, un peu sous hormones. Voilà. Tout ce système-là va se construire à partir de Mortal Kombat 9, qui s'appelle juste Mortal Kombat, d'ailleurs, c'est un peu triste. On va retrouver énormément de gimmicks modernes de Mortal Kombat 11, 1, Mortal Kombat 10, Mortal Kombat X, pardon. Mortal Kombat vont naître avec Mortal Kombat 9, qui sera énormément inspiré de Street Fighter 4 derrière, en termes, on va dire, d'état d'esprit, tout en se disant on va caler des systèmes un peu différents et autres, et c'est pas mal. Et je voulais glisser un tout petit truc aussi sur Injustice.
En fait, entre chaque épisode de Mortal Kombat, ils vont faire Injustice de mémoire.
C'est ça l'idée, ouais, c'est qu'en fait apparemment côté DC Comics, on a quand même bien apprécié de collaborer avec NetherRealm. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que c'est donné par Ed Boon et John Tobias en interview. Ils disent, nous, on a super bien bossé, on a vraiment kiffé bosser avec les persos d'ici. Donc, à un moment, on leur a pitché le truc en mode, vas-y, on fait un jeu de combat dans l'univers de DC. Du coup, là, en fait, les règles, on fait un peu ce qu'on veut. On n'est pas obligé, fondamentalement, d'aller faire des fatalities, des machins, des trucs. Effectivement, on n'est pas obligé d'avoir la signature de Mortal Kombat. On peut reprendre un système de combat qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait sur Mortal Kombat, mais... on va aller inclure des choses un peu rigolotes, notamment il y a toute la partie où les personnages peuvent énormément interagir avec le décor, ce qui est un peu le cas dans Mortal Kombat, mais pas tant que ça. Là, Injustice, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tous les décors sont interactifs, tu passes à certains endroits, tu peux aller balancer une roquette dans la gueule du mec parce qu'elle est dans le décor, lui faire tomber une statue dessus, enfin voilà, tout ce genre de choses-là. Donc Injustice, c'est des jeux très 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 fun, qui marchent très bien, qui sont pas des jeux aussi techniques que les Mortal Kombat, qui se sont joués en tournoi, je crois, pour le premier, mais pas pour le deuxième.
Ouais, ça c'est un peu joué, mais c'est des jeux qui sont surtout populaires auprès des Américains.
C'est ça, et en vrai, moi je trouve ça vraiment marrant, Injustice, c'est vraiment un jeu, c'est des jeux très 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 drôles, et qui fonctionnent très bien, et où tu as finalement cette espèce de tradition de Mortal Kombat d'avoir des scénarios un peu alambiqués, on va dire ça comme ça.
Oui, pour Mortal Kombat, c'est drôle.
Là, pour Injustice, il part du postulat de base que Superman est devenu méchant et fasciste, hein, globalement.
Oui, c'est ça. À chaque fois, les mecs partent sur une idée à la con et ils y vont. Et
et t'as toujours un retournement à la con, et t'as toujours une justification du fait que le Joker peut se battre contre Superman sans se faire exploser du dès le premier coup de poing.
Que n'importe quelle personne peut se battre contre Superman sans mourir du premier coup. Hein.
C'est ça, il y a plein de justifications tout à fait débiles qui marchent très très bien, et je tiens à tirer mon chapeau quand même aux équipes de NetherRealm sur un truc, c'est que dans Injustice 1 comme dans Injustice 2, ils ont réussi à trouver une utilité à Aquaman. C'est vrai même. Ça fait plaisir.
Mais d'ailleurs, les Mortal Kombat, les Injustice, il y a aussi un truc qu'ils font très bien et que ça ne fait pas du tout Capcom sur ces jeux de baston, c'est qu'ils ont un contenu solo qui est vraiment comment dire, conséquent. Parce que
très scénarisé aussi.
Déjà, il y en a un en fait, parce que Street Fighter, en réalité, même Marvel vs Capcom, tu fais le mode arcade, c'est fini, hein, y a rien d'autre.
Ce qui est très rigolo en fait avec les Mortal Kombat, mais je te rejoins là-dessus, le contenu solo, en fait, il y a beaucoup de gens dans le petit univers de Mortal Kombat, des gens que je suis, dont je fais un petit peu partie, mais pas tout à fait, qui en fait jouent au jeu juste pour le scénar, parce que c'est toujours, mais c'est un film de série B, quoi. C'est toujours totalement débile, mais toujours inattendu, tu vois.
Je fais ça pour Tekken.
Mais en vrai, c'est extrêmement drôle. Mortal Kombat, t'as vraiment des trucs complètement cassés. Et ça ressemble vraiment à un film Mortal Kombat. Le Mortal Kombat 1, par exemple, c'est vraiment. Tu croises machin sur le marché, bagarre. Tu l'as battu. T'arrives, tu fuis avec lui parce que finalement tu t'es battu avec lui, mais c'est quand même ton pote. Puis tu te retrouves dans une ruelle, tu croises un autre perso, bagarre. Et en fait, c'est que ça, quoi. C'est vraiment. C'est absolument débilissime, mais c'est extrêmement drôle. Et ça se fait bien, hein. Le scénar généralement dure 4-5 heures. C'est rigolo, tu te bats régulièrement. T'as des cinématiques débiles, t'as des personnages débiles, t'as des situations débiles. Tout est hyper second degré. Y a un moment où t'as un retournement auquel tu ne comprends absolument rien et c'est voulu. Ça marche bien, vraiment. Si t'es un peu client, honnêtement, c'est vraiment très très drôle. Moi, je suis en tout cas très très client. Bref, on va peut-être parler de Arc 6, puisqu'on est quand même.
Ouais, alors Arc 6, ça va être un peu. Alors, pour Arc 6, vraiment, c'est un petit studio. Hein, ils ont fait Guilty Gear, mais ils le faisaient en collaboration avec Samy pour avoir une place sur une borne d'arcade. Bon, ce qui va se passer, c'est que Samy va faire une fusion avec un petit éditeur qui s'appelle Sega.
Ah, on les connaît bien, eux. Hein.
Ils vont être un peu ronds comme devoir chez Arc 6, parce que, alors à l'époque, ils sont en train de faire Guilty Gear 2X Axe Core, parce qu'on aime bien les jeux, là, les titres à la con dans les jeux de baston, surtout chez Arc 6.
Encore une fois, je suis très très client, hein, y a pas de soucis.
Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont perdre les droits de Guilty Gear, enfin, en tout cas, une bonne partie des personnages. Et du coup, ils sont un peu genre, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, ils ont plutôt eu un coup de peau, eux aussi. Puis ils ont sorti donc une nouvelle franchise qui s'appelle Blaze Blue, qui reprend les bases de Guilty Gear en termes de gameplay, des herdages, des personnages qui sont très caractérisés dans leur gameplay. Enfin, il y en a un qui manipule sa sœur qui est en fait une espèce de marionnette géante, pas facile à jouer du tout. Mais voilà,
c'est là où tu te retrouves de nouveau avec comme à la fin des années 90 avec des jeux de combat où t'as des personnages très 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 différents les uns des autres et qui essayent des trucs un peu fous.
Ouais, globalement, c'est la recette d'Arc 6 sur Guilty Gear. Hein. Je suis pas revenu trop dessus, mais Guilty Gear, on parle quand même du jeu où un des personnages, il pose des boules de billard sur le terrain et tu peux taper dedans avec sa quille, et en fonction de comment tu tapes, la boule elle va pas dans la même direction et parfois elles peuvent rebondir entre elles.
Ah oui, c'est pas du tout le bordel, quoi.
Ah ouais, il est génial, ce personnage. Hein. Il est super dur à jouer, mais qu'est-ce que c'est drôle. Donc voilà, eux ils vont continuer là-dessus, et en fait BlazBlue va sortir en arcade et en console à peu près en même temps que Street Fighter 4, donc il va bénéficier un peu de cet appel d'air pour vraiment se faire connaître. En plus, c'est un style qui est différent, très, très animé, avec aussi un mode story qui est assez conséquent sur console, mais là c'est plus du visual novel, avec un scénario très compliqué, beaucoup trop pour son propre bien. Mais c'est un titre qui va avoir ses petits fans. Moi, franchement, quand je suis tombé dessus, j'ai fait « Putain, ça a l'air vraiment stylé, on peut faire... Les personnages sont un peu plus fous que Street Fighter. » Et c'est un jeu qui va quand même plutôt bien marcher. Qui va être en plus en une 2D en sprite. Donc, voilà, Street Fighter a été passé à autre chose, Mortal Kombat est aussi en 3D, donc c'est vrai que ça a détonné un peu. Et en fait, ils vont commencer à faire leur petite réputation, et le moment où ils vont sortir, récupérer les droits de Guilty Gear à un moment, heureusement pour eux, et ils vont sortir Guilty Gear Xrd. Et pourquoi j'en parle, le jeu, parce que ça reste encore un jeu qui est finalement assez niche, hein, par rapport à même par rapport au jeu de baston en général. Mais c'est le premier jeu où ils vont avoir leur style de 3D animé. Donc on peut avoir Dragon Ball FighterZ ou le dernier Guilty Gear Strive. Et c'est avec ce jeu-là qu'ils vont le sortir. Et ça va commencer à les mettre sur le devant de la scène en termes de studio parce qu'ils vont... Bah, c'est... Quand tu regardes à l'époque, c'est quand même très très joli. Ça marche très très bien. Là où en fait où vraiment commencer à être connaître, bah, c'est avec Dragon Ball FighterZ qui est sorti en 2018. Et en fait, ce qui va mettre en avant leur style, leur savoir-faire dans un jeu qui va très bien marcher auprès du grand public, puisque c'est Dragon Ball, qui est une vraie lettre d'amour d'ailleurs à la série, puisque il y a plein de petites cinématiques hommages en fonction des terrains et des personnages que tu prends.
Les finishers.
Les finishers, même certaines intros qui sont présentes. Et c'est un jeu qui va extrêmement bien marcher. Et qui va vraiment leur permettre de dire, ben voilà, nous on est un studio qui fonctionne. Donc en parallèle de continuer de faire des Guilty Gear, ils vont aussi faire des jeux pour en tant que prestataire. Là dernièrement, ils ont fait Grand Blue Fantasy qui est adapté d'un énorme succès mobile et qui reprend leur style de jeu de combat et leur style de visuel. Et vraiment, je pense que maintenant c'est peut-être le studio le plus efficace sur le sujet, parce qu'à cette époque-là aussi, Capcom va faire de la merde avec Street Fighter V. Et Marvel vs. Capcom Infinite, qui sont des jeux qui vont sortir pas très bien finis, un peu moches. Street Fighter V mettra plusieurs années à être rattrapé. Donc eux, ils vont aussi en profiter pour se faire connaître, quoi.
C'était pas le fameux jeu qui était censé sortir en saison ou en épisode, et genre quand il est sorti, il y avait 5 persos, et les 5 persos suivants, c'était 3 mois plus tard ou...
Comprendre en kit.
Oui, non, en fait, Street Fighter V sort avec 16 personnages, mais tu n'as même pas de mode arcade. T'as des espèces de mini-histoires de 3 combats d'un round pour les personnages en guise de mode solo. Le mode online est une merde infâme. Vraiment, j'ai joué à l'époque, c'était 5 minutes pour, à la sortie du jeu. Des fois, j'attendais jusqu'à 5 minutes pour avoir un match. Le match, tu faisais tes 2 rounds. Si tu t'étais fait exploser, tu pouvais même pas rematch et tu pouvais réattendre 5 minutes après. C'était vraiment pas bon, quoi. Enfin,
c'était vraiment pas au point. Il me semble d'ailleurs que tu pourras me dire si j'ai des bêtises, mais c'est pas Arc System Works aussi qui avait imposé le rollback netcode finalement comme une espèce de standard dans leur jeu.
Alors,
je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est le cas.
Alors, on va peut-être parler du online justement. Donc, si vous avez joué à Smash Bros Ultimate, ou même à Smash Bros depuis que Brawl parce qu'il y a du online, le type de rollback qu'ils utilisent, enfin de netcode, c'est ce qu'on appelle le délai netcode, c'est-à-dire que y a un délai de frame sur ce que vous mettez comme commande, et ça va se répercuter sur le jeu. Le problème, c'est que si le joueur d'en face est en retard, bah, y a des freezes. Et ça, c'est ce qui va être dans tous les jeux de combat, jusqu'à peu près que le Covid arrive par chez nous. En tout cas, tous les jeux de combat japonais. Et en fait, c'est le rollback netcode qui est en fait une technologie un peu plus poussée, qui est une espèce de mélange qui permet de prédire un petit peu ce qui va être fait, donc évite d'avoir trop de décalage, va plutôt être implémenté, je crois d'abord, je crois que Mortal Kombat, le 10 ou le 11, va l'implémenter avant même que Arxis le fasse dans un de ses jeux. Et il me semble que Skullgirl, qui est un jeu indépendant là aussi.
Mais alors Skullgirl, là, ça c'est certain, puisqu'ils en avaient fait, ça faisait partie des gens qui étaient un peu vocaux, entre guillemets, sur le sujet, qui disait oui, non, mais en fait, c'est pas très compliqué à faire, regardez, nous on l'a fait, quoi.
Ouais, mais en fait, c'est pas très compliqué quand tu le fais dès le début. À implémenter quand un jeu qui existe déjà, c'est un petit peu plus dur, de ce que j'ai compris. Alors, le site doit encore exister, parce que je sais qu'ils ont arrêté de leur côté, mais Bagropoint a un très bon article sur c'est quoi le rollback netcode. Je vous le recommande, et je pense qu'ils ont tout archivé sur un site sans PHP, histoire que ça s'affiche vite, donc ça doit encore être disponible. Sinon, il doit sûrement y avoir des articles en anglais sur le sujet, mais en français, c'est plus compréhensif. Et en fait, le rollback, ça va être implémenté dans quasiment tous les jeux qui vont sortir après la pandémie de Covid, notamment pour des questions de pouvoir jouer en ligne, parce que vraiment, jouer au jeu de combat avec le délai, c'est très très chiant. Le rollback, la façon dont c'est fait que t'as un confort supplémentaire, même avec des gens qui sont un peu loin, qui ont une connexion qui est pas ouf, tu as un confort de jeu qui est quand même nettement supérieur à ce qu'on avait à l'origine. Et Arxis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le rétro-installer, alors avec l'aide de la communauté, dans certains de leurs plus gros jeux, donc la dernière version de BlazBlue Central Fiction, la dernière version de Guilty Gear 2X, qui est Accent Core plus R, et la dernière version de X-Herd. Ils l'ont rajouté dans Dragon Ball FighterZ il y a pas très longtemps. Alors Dragon Ball FighterZ, je pense que comme c'est une propriété de Bandai Namco, c'était pas eux qui décidaient. Et ils l'ont mis dans le dernier Guilty Gear et le dernier Grand Blue Fantasy. Et vraiment, pour le coup, c'est un confort de jeu en ligne que je trouve assez incroyable. Moi, ce qui fait que j'aime bien jouer en ligne sur ce jeu, c'est que tu les lances, tu vérifies que les mecs en face, ils n'ont pas des connexions trop pourries quand même. Hein. Et en fait, tu joues très très bien, quasi confort, comme si t'étais chez toi, quoi.
Oui, ça reste des technos assez impressionnantes quand on voit avec ou sans. Je crois que c'est les mecs de Skullgirls qui avaient justement expliqué comment ça fonctionnait en disant voilà, même avec des temps de réponse. Alors ça a des inconvénients aussi, hein, c'est pas
Oui,
complètement gratuit.
quand c'est mal implémenté, tu peux avoir beaucoup de personnes qui se téléportent. Genre, ils
Ça.
lancent un coup et en fait, soudainement, ils sont en l'air. Et t'es là, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'arrive encore de l'avoir.
Voilà, c'est pas parfait, c'est sensible à un certain nombre de choses, mais en moyenne, pour jouer sur Internet, c'est-à-dire dès que tu as une latence, on va dire, un peu supérieure à 10-15 millisecondes, ça marche plutôt pas mal. C'est ça qu'il faut voir.
Ouais, non, mais dans l'ensemble, ouais, si t'as une connexion qui est pas trop dégueu, même en Wi-Fi, c'est correct. Après, si tu veux jouer à haut niveau et être très précis, il vaut mieux être en câblé. Mais vu le niveau d'exigence en termes de timing que tu peux avoir sur un jeu de combat, c'est quand même un confort qui est très très agréable. Enfin, jouer à Smash Bros en ligne, qui lui est en délai, après avoir joué un jeu comme Guilty Gear Strive qui est en rollback, j'étais là genre, ouais, je veux plus, quoi. Tu vois les décalages, tu vois les petits freeze parce que le mec a des problèmes de connexion ou c'est toi. Et c'est pas agréable de jouer comme ça, quoi.
Oui, clairement, il y a vraiment un truc derrière. Hein. C'est véritablement quelque chose qui va aller changer la façon dont les jeux sont joués en ligne. C'est ce qui fait que tu as aussi des tournois en ligne qui sont viables. Ce qui était quand même un truc un peu inconnu, on va dire, en 2008-2010, quand SF4 revient sur le devant de la scène. La partie jeu en ligne est quand même réservée aux gens qui ont une très bonne connexion et à condition aussi d'accepter que ce soit un peu moins bien, un peu moins réactif que ce que tu as, on va dire, en réel quand tu es vraiment en one-one. Alors, sachant que le jeu est quand même adapté à ça, c'est pas complètement. C'est pas rien non plus. Hein. Le jeu était adapté au fait que, ah oui, tu peux pas demander à avoir une réaction à la frame quand effectivement tu es sur du jeu en ligne dans lequel, bah, ne serait-ce que le temps de réponse de la machine par rapport au réseau, au mec d'en face, fait que tu peux avoir facile une frame, deux frames dans la vue. Donc les jeux sont adaptés pour ça. Mais ça n'empêche pas que globalement, il faut quand même. Ça change un peu la vie.
Oui, bah après c'est sûr que c'est pas parfait, mais bon, quand on a un niveau de joueur un peu régulier, mais qui fait pas forcément de tournoi, bah en fait c'est largement suffisant. C'est pour jouer avec ses potes, c'est très très bien en réalité. Et justement, tu parlais des tournois viables, ça va me permettre d'enchaîner un peu sur l'e-sport,
Oui.
parce qu'avec Street Fighter 4, Capcom a développé un des premiers gros circuit professionnel de jeux de combat avec le Capcom Pro Tour. Donc, il a eu sa 11e édition il y a quelques semaines à peine, d'ailleurs. J'ai regardé, c'était très très bien. Et depuis la sortie de Street Fighter 6, ils s'autorisent à avoir une grosse partie du tournoi qui sont en ligne, notamment pour pouvoir gérer facilement au niveau régional, sur des régions un peu grandes comme genre les États-Unis au hasard, hein, ou certains pays d'Europe. Et ça fonctionne bien en fait, les gens sont très contents. Alors c'est plus sympa de le faire en local parce que tu peux rencontrer les gens, tu peux échanger, tu peux jouer un petit peu après avec eux. Mais voilà, il y a cette facilité aussi qui permet de faire du tournoi sur de la partie professionnelle, et même pour des amateurs, ben, des gens se retrouvent sur Discord, t'as ton petit tournoi hebdomadaire, tu discutes un peu avec les gens dans le chat, et puis ben voilà, toi, ça t'engage pas énormément, ça te permet de faire un peu de compétitif, sans trop te prendre la tête, et surtout si t'habites dans une région un peu éloignée, qui est pas Paris par exemple. C'est très sympa, et c'est un confort de jeu qui rend le truc très 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 agréable. Moi, je joue régulièrement avec un pote en ligne, et c'est quand même très très pratique, d'avoir des bonnes connexions internet, quoi.
Oui, ça c'est clair, hein, c'est pas. On est quand même sur. Enfin, ça change un tout petit peu les. Ça change un peu la vie, j'ai envie de te dire, d'une
Voilà. Et
certaine manière.
l'autre changement avec le online, bah, j'en parlais un peu tout à l'heure. Donc, à l'époque de Street Fighter 4, c'était une nouvelle version, fallait raquer à nouveau. Et en fait, à partir de Street Fighter 5, Capcom va développer son système de saison, c'est-à-dire que tu commences avec un roster de base et puis tu vas avoir 4-5 nouveaux persos sur une année. Donc ça va te coûter 30 euros pour avoir tes persos, 20 ou 30 euros, ça dépend des jeux. Là, Street Fighter, c'est genre 30 euros pour 4 persos. Ce qui est quand même un peu cher. Après, il y a du sacré boulot, mais voilà, c'est un prix. Et maintenant, bah, si tu regardes Guilty Gear Strive, Tekken 8, ou même Dragon Ball Fighter Z, bah, T'as pas de super, de version super, peut-être qu'ils font un package avec tous les personnages quand le jeu est terminé. Mais globalement, c'est t'achètes ton jeu, et puis si tu veux les persos, tu peux les prendre en individuel ou tu prends ton season pass et t'achètes tout, et t'as tous tes personnages qui arrivent d'un coup. Et du coup, ça évite d'avoir à racheter à chaque fois. Par contre, c'est vrai que quand t'arrives en cours de route, ben, tu vas avoir une version ou que tu vas payer peut-être à les moitiés prix parce qu'ils la font la brader, mais par contre, il va falloir payer des DLC plein pot.
Ouais, c'est quand même pas tout rose, quoi.
Ben, Street Fighter V a fait un bon entre-deux en sortant une version intermédiaire qui s'appelle la Championship Edition où globalement t'avais les 4 ans de DLC du jeu et si tu voulais avoir la dernière année, ben, tu pouvais l'avoir en payant. Après, le jeu avait un système pour avoir les personnages gratuitement en jouant en jeu, ce qui était pas mal. Donc voilà, pour l'instant c'est pas des trucs qui existent sur les jeux actuels, les versions intermédiaires, mais je trouve que ce serait pas mal d'en avoir.
Ouais, j'ai l'impression que. En fait, la version intermédiaire, tu sais, un petit peu comme les Game of the Year Edition et les trucs comme ça, c'est quand même entre guillemets, un bon plan. Une fois que le jeu est rentabilisé, une fois que tes DLC sont rentabilisés, bah, tu ressors une version un petit peu plus complète, tu la revends à un prix un peu raisonnable. Finalement, ça reste quand même le même jeu, ça reste du contenu qui a été fait, qui a rapporté de l'argent, qui. Voilà. Donc, tu permets effectivement aux gens de re-rentrer dans le truc à un tarif raisonnable. Je trouve que ça
Ouais, c'est ça.
déconne.
Surtout qu'en plus, c'est des jeux qui évoluent avec des mises à jour aussi, hein. C'est très suivi. Ils refont un petit peu l'équilibrage entre les personnages. Ils te rajoutent des fonctionnalités au fur et à mesure. Donc, c'est aussi des jeux qui vivent, tu vois, sur 4-5 ans en général. Donc, arriver à la fin, c'est aussi arriver avec tout le jeu, ce qui est assez cool.
En vrai, ouais, c'est pas si mal que ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a encore comme gros jeu joué? On a.
Alors le plus gros d'entre eux, c'est Street Fighter VI, qui est un immense succès au Japon, au point que Toyota a sponsorisé le dernier, enfin les finales du Capcom Pro Tour,
Genre, tu pouvais
qui
gagner
ont
une
eu au
Toyota,
Japon.
quoi.
Non, mais je crois que tu pouvais gagner une moto,
Wow.
peut-être pas une Toyota,
Putain!
mais Toyota était sponsor de la compétition,
Oui, c'est ça, c'est quand même un truc un peu bizarre, hein.
ce qui est quand même très rare, et ça a été joué dans une arène où il y a des gros tournois de sumo. Je trouve très rigolo par contre. T'as Tekken 8, alors Street Fighter 6, tous les jeux que je vais citer, à part. Enfin, la majorité sont principalement sur PS5, PC, Xbox, certains sont sur PS4, et ceux qui sont sur Switch, je vais préciser. Donc Street Fighter 6, PS5, PS4, Xbox, PC. Alors moi je précise, je joue quasiment que sur PC parce que je paye pas le online et c'est mieux. Bah ouais, mais je paye juste mon
En
abonnement
vrai,
internet,
oui.
c'est mieux.
En vrai, c'est pas complètement idiot.
Donc, CS6, c'est le plus gros jeu. Il y a Tekken 8, qui lui aussi a son tour enfin, son circuit professionnel, qui est sorti l'année dernière. Il y a Guilty Gear Strive, qu'on est à sa quatrième année, et qui est disponible sur Switch depuis pas très longtemps, qui, moi, est un petit peu mon chouchou du moment. Parce que vraiment, ce jeu est magnifique et très sympa à jouer. Dragon Ball Fighters, alors qui est quand même. Qui a quoi, 7 ans maintenant, donc qui pour le coup est complet. A priori, il n'y aura pas de nouveaux personnages, mais qui est un jeu qui est assez apprécié, notamment avec des joueurs français qui sont très bons. On a eu un Français qui a gagné le championnat du monde de Dragon Ball Fighters il y a 2 ou 3 ans, je crois. Donc on a un petit succès en France là-dessus. Et le dernier jeu, alors il y a Smash Bros Ultimate qui fonctionne toujours, Melee qui ne veut pas mourir,
Oui,
mais.
Melee refuse de mourir,
Melee aux
ça c'est
États-Unis,
clair.
c'est une institution. Il y a encore des nouveaux joueurs qui, parfois, je pense, certains n'étaient pas nés quand le jeu est sorti, qui sont sur la scène compétitive. Je reste halluciné de la durée de vie de ce jeu. Et un peu moins gros, il y a Granblue Fantasy versus Rising, qui est aussi un jeu Dark 6, du coup, et qui lui marche pas trop mal. Et qui est un petit peu plus accessible que tout ce que je viens de citer, puisqu'on peut faire. Toutes les attaques sans faire des quarts de cercle.
Oh, alors, je sais pas si c'est beaucoup plus accessible, mais.
Un peu plus, parce que du coup, bon, le jeu est plus simple de manière générale. Plus
Ah,
simple à jouer.
je vais glisser un dernier petit truc aussi qui est une excellente initiative et je voudrais vraiment qu'on adresse un petit applaudissement spécial Dojo, c'est le chef Skiss, c'est pour nous. Concernant Mortal Kombat, je crois à partir du 10, alors 10, 11. 11, c'est sûr, 1, c'est sûr, 10, je suis pas sûr, et je crois qu'il y a Injustice 2 aussi. C'est un jeu qui était un des premiers jeux de combat disponibles en audio description. Enfin, ça
Ah
a l'air
ouais.
un peu bizarre comme ça.
Oh. Ah oui, pour les aveugles.
Exactement, pour les malvoyants, il y avait tout un système où en fait il y a des indices sonores et il y a de la description temps réel de ce qui se passe dans le jeu, qui fait que les personnes qui sont malvoyantes peuvent jouer au jeu de combat, peuvent en profiter, et ça fonctionne. Tu
C'est
peux
génial ça.
être
Ça, c'est stylé.
voyant, affronter quelqu'un qui est malvoyant, et en fait, si on ne te le dit pas, c'est-à-dire si c'est en ligne, tu ne t'en rendras pas forcément compte. Parce que le
Alors,
truc est assez bien branlé.
je sais que Street Fighter 6 a des options là-dessus, mais je sais pas ce qu'elles valent parce que moi, je les ai jamais testées.
J'en ai aucune idée, mais vraiment, allez jeter un tout petit coup d'œil à ce truc-là sur. Je crois que sur Mortal Kombat 11, ça a démarré, mais j'en suis pas certain. Mais je sais que sur le One, ça y est toujours. C'est assez impressionnant, tout le. Comme finalement, c'est un jeu sur un axe 2D dans lequel ton perso ne fait qu'avancer et reculer, mais il va de gauche à droite sur l'écran. T'as tout un système d'indices sonores à l'intérieur du décor, d'interactivité à l'intérieur du décor, qui fait que tu es capable de savoir où ton personnage est placé à l'intérieur du décor. Si le mec d'en face avance ou recule, toutes les attaques ont un son très particulier pour pouvoir justement être articulé et tout ça. Il y a vraiment un boulot gigantesque là-dessus. Et ça marche extrêmement bien. Donc je tiens à le dire, c'est vraiment, ça fait partie des trucs où, voilà, je sais pas ce que vaut celui de Street Fighter 6, je sais que celui de Mortal Kombat est très impressionnant.
Oui, bah d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé parce que moi, c'est pas trop ma came, mais Mortal Kombat 1, ça fait partie des jeux qui sont sortis récemment. Alors, je sais qu'il est un petit peu boudé parce que y a plein de trucs que les compétiteurs n'apprécient pas, mais c'est le dernier Mortal Kombat en date et je pense qu'à un niveau casu, il est plutôt sympa, il me semble.
Oui, de toute façon, enfin, de manière générale, ça marche bien. Hein. Faut pas te... si tu... En fait, ce qui est assez impressionnant, je trouve, avec Mortal Kombat, de manière générale, c'est des jeux auxquels j'ai moi beaucoup joué. C'est-à-dire, je suis pas forcément Team Mortal Kombat par rapport à Team Street Fighter. J'aime bien les deux. Hein, y a pas de sujet. Ce que j'apprécie beaucoup avec Mortal Kombat, c'est qu'il y a un côté très très accessible. L'objectif, c'est que tout le monde puisse arriver à s'en sortir. Tout le monde puisse arriver à comprendre que un contre, ça se fait comme ça, qu'une frame, c'est à tel endroit, que les frames de défense sont comme ci, comme ça. C'est vraiment impressionnant quand tu regardes les tutos de Mortal Kombat 10, 11, 1. Sur chaque perso, tu as vraiment un tuto complet dédié au personnage, c'est pas le tuto générique, dans lequel on t'explique énormément de choses. On te dit vraiment, à ce moment-là, on te fait clignoter le personnage, on te dit voilà, tu es dans une frame de récupération, ça dure de là à là. Si à ce moment-là, tu appuies sur tel bouton, il va se passer ça, 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 ça. Le jeu t'explique vraiment toute sa logique derrière. Il n'y a
Ouais, bah
rien de mystérieux.
c'est un truc aussi qu'ils font pas mal maintenant dans les jeux actuels, un Street Fighter 6. Alors peut-être pas au point de t'expliquer les frames d'invulnérabilité, quoique, mais t'as un tuto dédié pour chaque personnage, il t'explique toutes les mécaniques plus ou moins avancées, Guilty Gear a ça aussi,
Ça,
avec...
c'est bien, c'est vraiment des bonnes options. Ça rend le truc accessible pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une iframe, qui ne savent pas ce que c'est qu'une frame de recovery, et ainsi de suite. C'est pas simple en fait à comprendre quand on rentre dedans maintenant. Ça a 40 ans de codification.
Oui, c'est un genre qui est très très codifié. En plus, selon le style de jeu, les codes sont légèrement différents. Donc avoir
Tout à
un
fait.
truc en jeu qui t'apprend à jouer et qui t'explique comment fonctionne ton personnage, c'est quoi certaines techniques avancées, qui te les met à disposition, mais t'es pas obligé de le faire tout de suite pour progresser. Tu peux juste faire le truc de débutant, aller en ligne et puis revenir un peu plus tard quand tu veux progresser. Ça, c'est vraiment des trucs qui font... Que les développeurs faisaient pas il y a 5-10 ans et que maintenant ils prennent vraiment le temps de faire parce qu'ils savent que c'est ça qui va faire venir les gens. Et après, ben, on est aussi sur des jeux où les communautés sont souvent actives, pour ceux qu'on vient de citer. Donc tu as des trucs en ligne, tu as des wikis, tu as des forums, tu as des Discord, il y a toujours moyen de trouver des gens qui peuvent aider.
T'as des vidéos de démonstration, t'as des choses comme ça, mais voilà, je trouve ça impressionnant, moi, quand j'ai vu ça dans MK11, je trouve ça toujours impressionnant de se dire, les mecs te disent, tu choisis le tuto de Scorpion, on te dit, voilà, bon, Scorpion, c'est un personnage un peu polyvalent, bon, voilà, vous allez pouvoir tout faire avec, c'est le truc simple, par contre... Vous n'allez pas forcément atteindre un gros niveau compétitif avec. Quand tu prends Scarlett, on t'explique, alors ça, c'est un personnage. Bah, tu vois, le simple fait de dire, bah, t'as choisi ce personnage-là, bah, on va t'expliquer, on va te dire, ok, c'est un personnage qui va plutôt se tenir à distance. Donc quand t'es prêt, t'es en danger. Quand t'es loin, tu vas plutôt être en position de force. Bah, je trouve que c'est super, quoi. Tu peux vraiment te dire, ah ok, bah, j'ai fait le tuto de tel perso. Ouais, c'est cool, c'est marrant, mais est-ce que c'est mon style de jeu? Peut-être pas. Et
Oui.
vraiment, le jeu t'aide à choisir ça, quoi. C'est ouf.
Puis souvent, il te faut un peu, voilà, le personnage. Alors Street Fighter fait ça vraiment bien, je trouve.
Ah ouais.
Quand il te décrit les attaques, il te fait un petit pitch sur toutes les attaques spéciales des personnages. Et puis en fait, il te montre juste l'attaque. Il te montre l'attaque dans un combo. Et il te montre aussi dans une situation où la personne bloque. Voilà, qu'est-ce que tu peux faire avec pour qu'est-ce que ça donne quand ça bloque? Est-ce que tu peux te prendre une riposte? Est-ce que t'es tranquille? Est-ce que c'est toi qui as l'avantage? Et il t'explique vraiment des astuces juste de plan de jeu très basiques, mais que tu peux comprendre très rapidement et avec du visuel juste à côté pour te montrer effectivement qu'est-ce que ça fait à l'écran. Et je trouve que c'était une excellente façon de t'apprendre à connaître les bases de ton personnage.
Ouais, c'est voilà, de très bonnes initiatives. On est très content de voir ces choses-là, hein, des jeux plus accessibles, tout un tas d'options d'accessibilité pour les personnes qui...
Surtout que c'est des choses qui prennent du temps à faire.
Oui, ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça, c'est des choses qui coûtent. Au sens, ça coûte du temps de développement, de faire des bons tutos, les options d'accessibilité, que ce soit pour les personnes qui ont des difficultés de mobilité, que ce soit pour les malvoyants, tout ça, ça prend du temps à mettre en place, c'est un coût non négligeable, donc il faut vraiment se dire que c'est un vrai boulot, et c'est important de le faire, et encore une fois, moi je suis très très content quand je vois des choses aussi bien faites. Voilà. Effectivement, Mecton, tu n'es pas obligé de faire la remarque comme ça.
Hein. Non, c'était pour la placer. Ouais, pour moi, ça vient un peu du gros déclin, pour pas dire de la mort de l'arcade. Permettre ce genre de tuto, tu peux le faire uniquement sur les versions console, sur les versions console, quoi, des choses que les gens jouent à la maison. Et je disais, parce que je vois pas un mec passer 10 minutes sur un tuto pour 100 yens.
Oui, mais c'est ça, l'arcade, l'objectif, c'est l'immédiateté. C'est tu mets une pièce, faut que t'aies compris en 10 secondes comment ça se joue.
Le premier combat est facile et après on te fait cracher.
Voilà, mais c'est le principe du jeu d'arcade, hein. Facile à comprendre, difficile à maîtriser. Tu regardes un shooter, il n'y a rien de plus con. Hein. T'as un bouton pour tirer, éventuellement un bouton pour
esquiver les boulettes. Voilà.
Hein. Esquive la boulette. Voilà, bref, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que je crois que l'émission a quand même été extrêmement fructueuse. Je suis très 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 content de ces trois petites émissions qu'on a faites sur la bagarre. Là, ça fait très plaisir. Effectivement, ça fait un peu Père Castor, raconte-nous une histoire.
Mais c'est ça qui est cool aussi.
Mais en vrai, c'est très très cool. Ça me fait très plaisir, effectivement, d'avoir fait cette grosse rétrospective versus fighting. Faudra qu'on en refasse des comme ça. Hein. Je sais pas. La bagarre sur oscilloscope. Mais oui, on le fera.
Enfin, l'après-quelle.
La bagarre dans la rue.
Mais un jour, mais la vraie bagarre. Un jour, il faudra sérieusement, et très sérieusement, qu'on s'attaque à des styles un peu négligés. Je pense notamment, par exemple, aux jeux de sport. C'est des choses que...
C'est vaste, ça, les jeux de sport. Hein.
C'est vaste, il y a plein de choses à en dire, il y a plein de choses intéressantes, il y a plein d'anecdotes rigolotes. Là aussi, il y a plein de gens qui... les jeux de foot du monde entier ont été créés par deux mecs. Vous le savez pas, mais je vous le dis.
Putain, sérieux.
Excellent. Il y a plein de trucs à en dire, et je pense que c'est les formats un peu longs comme ça, où on peut justement en profiter pour vraiment aller balayer tout un style de jeu... C'est vraiment des choses intéressantes à faire. Bref, dans 2 semaines... Alors attendez, faut que je regarde un calendrier, bougez pas.
Bah écoute, il se trouve que dans 2 semaines, on sera juste après la présentation de la Switch 2.
Donc ce sera probablement une émission spéciale sur la présentation de la Switch 2.
On va parler d'Animal Crossing. Hein.
Il y a de bonnes chances qu'on finisse comme ça. Hein, Mario Kart 9. Bien sûr,
d'Animal Crossing en plus.
C'est ça. Donc MK9, c'est pas Mortal Kombat 9, hein, c'est Mario Kart 9.
C'est Mario Kart avec des fatalities quand tu balances les carapaces.
Ça serait énorme, ouais. Je serais très client. Franchement, les mecs, ils font Mario Kart versus Tekken, moi je suis client.
Putain, mais j'avais Mario Kart versus Twisted Metal.
mais faites-le, quoi. Moi, je suis très très chaud pour ça. Voilà, donc on parlera très probablement de Switch 2, il y a de bonnes chances. Je ne sais pas s'il y aura autre chose dans l'émission, je ne sais pas si on aura suffisamment de matière, mais a priori oui.
En fonction, on pourra peut-être faire un petit virage par Mira.
Ouais. Peut-être. Alors peut-être qu'on aura peut-être une émission dédiée, comme ça ce sera peut-être un peu plus propre. Le remake de l'émission d'il y a 10 ans.
Ça sent le fil rouge, les enfants. Hein, le temps qu'on
C'est Dojobar Xenoblade X, définitive édition.
Mais en vrai, faut faire ça. Faudra faire ça. Faudra faire le numéro définitive édition. C'est une excellente idée. Voilà. On va se quitter là, en tout cas. On vous fait de très, 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 très gros bisous. On vous dit dans une semaine en podcast, à dans 2 semaines en direct. Ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Bisous.